Il y a ça aux États-Unis, je sais pas si vous voyez des vidéos à chaque fois qu'ils tournent, c'est des mecs qui disent qui a fait ce burger? Qui a fait ce burger? Et tu penses qu'il va s'énerver, c'est toujours la même vanne. Et ils disent c'est lui, il dit mec, ton burger, il tue mec! Et tout le monde applaudit, tu dis ah, les Américains ils sont cool quoi, quand ils tuent pas des Irakiens.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best. Down, 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 down.
Je suis désolé, j'étais beaucoup trop bas. Est-ce qu'on peut le refaire?
Ouais, bien sûr. Tu veux quoi comme tonalité? Tes voix de tête, toi, c'est ça?
Moi, je suis plus voix de tête.
Ok, ça marche, on refait.
Excusez-moi, excusez-moi, un petit silence.
Simply the...
Ok, c'est plus comme ça, juste pour vérifier.
Pas de soucis.
Désolé.
3, 4.
Simply the best. Down, 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 down.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast. Aujourd'hui, on va parler du meilleur job. Je m'appelle Cyrus.
Ok, donc il n'y a plus le meilleur.
Ah oui, oui, okay,
l'émission, on discute du meilleur truc avec,
avec les meilleurs invités.
Avec,
non, mais parce que je me dis, on est, c'est la combienième là, Tom?
C'est la, je sais pas, 23 millionième émission, je crois.
Ok, c'est la 23ème, donc je me dis peut-être que voilà. Mais oui, j'ai oublié de le dire. Vas-y, à toi.
Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler boulot, taf, hein, le meilleur boulot, le meilleur job pour se mettre bien sa race. Je suis Tom.
Enchanté Tom, et avec nous, on a deux invités de talent, deux invités de qualité qui sont déjà venus tous les deux dans ce meilleur podcast, mais pas ensemble.
À ma gauche. Ça veut dire qu'il n'y a plus trop d'invités qui veulent venir. Parce qu'on a fait le tour.
Non, bon, on a fait une sélection naturelle, on garde ceux qui ont vraiment été bons,
ah,
on les remet.
Là, c'est les huitièmes de finale des invités.
Exactement.
Exactement. Et après, on va faire le meilleur invité, le meilleur podcast avec une finale.
Et celui qui gagne, il remplace Cyrus.
Yes. Exactement.
Vous avez peut-être reconnu leur voix.
Peut-être.
Je crois pas. Hein.
Alain Soral et...
Panayotis Pasco, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup de me permettre d'être avec vous.
Est-ce que tu veux te présenter ici ou pas?
Non.
Est-ce que je te présente?
Panayotis Pasco, voilà, je fais des blagues sur scène et je commence à...
Stand-up comedian.
Stand-up comedian, yes. And I'm starting to direct some movies. So.
All right, awesome.
Right now I wanna be a director, okay?
Okay.
And on my left you have like Aramanis. Aramanis on Vine.
Albatar.
Et tout de suite on lui met le Vine de Nice.
Lui c'est stand-up film et moi c'est Vine quoi.
Donc, mais attendez, mais quelle est cette nouvelle voix qui
c'est Anis
ajoute aux autres?
Aramanis, on peut l'applaudir s'il vous plaît.
Yes. Woo.
Bonjour à tous. Merci. Bonjour, je m'appelle Anis, je bosse sur internet, je fais des vidéos drôles.
Ok, auteur, comédien.
Auteur, comédien, un peu réel.
Créateur de concept aussi.
Créateur de concept aussi.
Dealer de sourire, je crois même.
Dealer de sourire. De raga et de sourire. Ouais.
Allez. Dealer à qui de sourire?
Ok, c'est quoi
c'est
le
fini,
thème du
c'était
coup
une super émission.
Est-ce que
merci
c'était
à
l'émission de la meilleure blague
participé.
Parce que la proposition de Cyrus ne fonctionne pas.
Du coup, ah, la meilleure blague serait une tuerie. Hein.
Ouais.
Tout le monde vient avec des.
C'est prévu, c'est prévu, c'est dans les sujets.
Désolé.
Ah bon?
Il s'est énervé. C'est prévu, ok.
C'est prévu, c'est prévu. Spoil pas les thèmes.
Moi, je pense que c'est faux. Je pense qu'il a pas eu l'idée, mais il voulait pas dire
genre. On a un fichier Excel. On a un fichier Excel, c'est dessus.
C'est quoi cette preuve de merde? On a un fichier Excel. C'est quoi cette preuve de binoclard de 6ème qui se faisait taper dans la cour? Non, mais j'ai un fichier Excel. D'accord, Thibaut, mais casse-toi de là. Non, mais parce que ma maman. Il m'a dit qu'il créait un open office. Allez, tarasse, qu'est-ce que c'est de là, ça?
Word Excel.
On y a un fichier Excel.
On va y arriver, Tom. Ouais,
on
yes.
va y arriver, t'inquiète.
Ça va être une émission hyper organisée, je pense.
Mais Tom, d'ailleurs, t'as un truc à, niveau organisation, t'as un truc
t'as
à
un
nous
truc
dire.
Dans le côlon. Ça s'appelle un mélanome. La pire manière d'annoncer un cancer. T'as une petite boule dans les reins. Tu décèdes à la fin de cette émission. On peut l'applaudir.
En termes d'orgas, c'est pas tout.
C'est l'édito de Tom. C'est ouais. l'édito.
Ah là, faut se taire. Allez, vas-y.
C'est parti.
On croit en toi, mec.
Henri Salvador. J'aurais aimé m'arrêter là. Que ce soit l'édito. Non, Henri Salvador, un vieux chanteur français qui ressemble beaucoup à Kylian Mbappé. Il a chanté une chanson qui s'appelle.
Wow.
Putain, je pensais pas qu'elle allait autant cartonner, ça là déjà. Il a chanté une chanson qui s'appelle Le travail c'est la santé. Mais il a chanté de manière ironique hein, genre la phrase d'après c'est ne rien faire c'est la préserver. Et pourtant j'ai regardé sur internet et il y a plein de cabinets d'études et de sondages qui ont fait des enquêtes pour prouver que le travail c'est vraiment la santé. Mais arrêtez de faire ça, c'est faux hein. Si le travail c'est la santé, ben, on aurait tous une bonne grosse chiasse, faut pas se le cacher. Et je pense que même on préfère être malade que travailler. C'est simple, qui préfère aller bosser plutôt que rester chez soi avec un petit rhume des familles devant Netflix? Et selon une étude probablement sponsorisée par Maxime Barbier, 57% des Français déclarent prendre du plaisir au travail. Ce qui est plutôt étrange, car si 57% des Français travaillaient dans un trampoline park, bah déjà ça se saurait. Et puis parce que le moment où on est le plus heureux dans la journée, bah c'est quand on part du travail. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on organise des pots de départ, mais jamais des pots d'arrivée. Même si, bon, après, je concède que le pot de départ, c'est encore plus triste que la discographie de Fauve. Hein, pour moi, il y a deux manières de le voir. Soit tous les gens sont hyper contents de vous voir partir au point de faire une fête en votre honneur. À ce moment-là, remettez en question votre attitude ou votre haleine. Soit c'est comme si vos collègues étaient des co-détenus de prison qui seraient là en train de vous encourager parce que vous avez réussi à vous échapper de cet endroit infernal. Va-t'en vite, profite de ta liberté, prends ces 200 euros de bon d'achat chez Darty et te retourne pas. Et souvent, ceux qui sont en charge des cadeaux dans les pots de départ, bah, c'est les membres du CE, hein, le comité d'entreprise. Vous savez, hein, c'est les gens qui pensent être les Avengers du divertissement parce qu'ils ont réussi à négocier 10% sur les billets d'entrée au Futuroscope. Ouais, c'est les mêmes qui pensaient avoir fait mieux que la COP21 le jour où ils ont fait marquer « N'imprimez pas ce courriel, sauvez la planète » en signature de mail. Bon, je sais, j'exagère un peu, mais ça, c'est parce que j'ai le seum, j'ai jamais eu de ticket resto, j'avoue. Et qu'aussi, j'ai pas trouvé un stage de 3e et je me suis retrouvé dans la librairie ésotérique de mon oncle
à vendre
des pendules et des boules de cristal.
C'est vrai ?
C'est vrai.
La dépression.
Mais bon, voilà, ça c'est peut-être que mon avis. Et du coup, je voulais avoir le vôtre, hein, chers invités. C'était quoi votre stage de 3e à Nice ?
Pareil, c'était avec ma tante, c'était à DHL.
C'est grave pas sexy. C'est quoi DHL ?
DHL, c'est
les
genre.
Colissimo,
quoi. Enfin, ouais, TNT, ouais, TNT.
La... C'est UPS.
UPS, voilà, c'est la même chose. Okay. Sauf que c'est des armes atomiques.
C'est les mines antipersonnelles.
C'est le Uber Eats, mais tu commandes
des grenades.
Nucléaires.
C'était pas ouf.
Non, c'était pas, vraiment pas ouf. J'ai quasiment rien fait. Ce qui était marrant, c'est qu'il y a eu une tombola. Ça, c'était marrant. Et j'ai gagné le prix de ouf. Et c'était un champagne.
Une calache.
Non, c'était un champagne qui coûte trop cher.
Ah, et du coup, vu que t'étais mineur, bah ouais. Oui, c'est ça.
Et que j'étais de confession anti-alcool, du coup, j'ai donné la bouteille à un mec.
Je l'ai explosé devant tout le monde.
Non, je l'ai donné à un gars, à un Gilou ou un GG, qui était très bien content.
Il a encouragé l'alcoolisme d'un vieux mec.
Il s'est suicidé une semaine après. Ouais, c'est
ça. Il est rentré à la maison, il a dit, putain, la plus belle bouteille d'alcool, c'est un gamin de 3e qui me l'a offert. Ma vie, c'est vraiment de la merde.
20 ans de boîte que
j'ai
misé
sur ça. J'ai pas capable d'acheter cette bouteille et c'est un gamin qui me la file.
Et il y a un truc que t'as appris, un enseignement de stage de 3e dont tu te souviens ou pas ?
Donner de l'alcool, hein. Ça t'aide.
Franchement, j'aimerais te dire oui là pour rendre le podcast intéressant, mais je vais te dire juste non, point.
Ça peut être ça l'enseignement. Vous retiendrez rien de votre stage de 3e ?
Si, depuis ton stage de 3e, tu bois de l'alcool.
Ouais, j'ai kiffé depuis.
C'était quoi ton stage en 3e, Pana ?
J'étais chez Talentbox Moteur. J'avais envoyé genre 80 mails, je les avais harcelés. C'est une agence de. Oula. Une agence d'articulation et j'ai vraiment tout perdu depuis. Non, c'est une agence d'attaché de presse à Paris. Au début, ils me donnaient un peu du taf de merde, genre accompagner des restas, faire une interview à TF1, des trucs un peu comme ça. Donc c'était marrant, j'étais dans un taxi avec Jonathan Lambert alors que j'étais en 3e. Et vu que moi, mon but, bah, je faisais ça parce que je voulais rencontrer des restas pour faire des interviews et tout, donc je m'étais démerdé pour essayer de trouver ce boulot pour être proche un peu des restas. Puis à un moment, ils m'ont donné un peu plus de responsabilité parce que je savais gérer Photoshop, du coup j'ai fait leur line-up et tout. Attends, et je me suis retrouvé à faire un peu leur site et tout, ils m'ont trop kiffé. Et du coup, même après mon stage, des fois on se voyait, genre des coups de main et tout. Et après, j'ai volé tout le fichier Excel avec tous les numéros de toutes les restas et j'ai volé genre 600 numéros et
après, c'est comme ça que t'as eu le numéro de Booba.
Ouais. Et après je l'ai, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut garder pour nous si jamais on a pas envie de se faire enculer quelque part, mais et genre je volais des numéros comme ça et après j'appelais les gens et je dis ouais je fais des interviews et tout, et j'ai réussi à faire des interviews comme ça, donc c'était un peu marrant. Je suis un peu un petit fil YouTube,
donc l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est voler. Ton conseil, c'est voler des données confidentielles.
C'est arrivé de nulle part.
Ouais, le fil YouTube, il était là.
Non mais un petit filou, je sais pas. Après, ça venait naturellement. Tube.
C'est quoi cette conclusion ? Je suis un yaourt nature. Non mais pourquoi ?
Avec des bouts de banane. Non, non, je pense que mon conseil, c'est. Bah que parfois il faut vraiment forcer, parce que moi j'ai envoyé vraiment 20 mails puis ils m'ont jamais répondu et je me suis dit bon, je me souviens j'étais allé sur le site, tu sais dans les mentions légales du site internet.
Par contre t'as commencé en disant que t'as envoyé 80 mails, tu passais à 20.
Non parce que
j'ai peur qu'il y avait la boîte, dis-le directement.
Ce que je disais c'est que justement j'ai envoyé une vingtaine de mails classiques parce qu'il y avait un mail de contact, ils m'ont pas répondu, j'en ai envoyé genre 2 ou 3 par jour. Anis me connaît, il connaît le panard harceleur relou. Et genre, après, je m'étais dit, bon, ce mail, il fonctionne pas. Du coup, j'étais allé dans les mentions légales et j'étais tombé, tu sais, dans les mentions légales, t'as le numéro de la boîte et tout. Ouais. Puis, t'as des mails de gens un peu importants dans la boîte parce que c'est les mentions légales, t'es obligé. Et du coup, je les ai contactés là-dessus et j'en ai renvoyé 20 là, j'ai appelé genre 10 fois le truc et tout. Puis, à un moment, j'ai réussi à en avoir une et j'ai dit, je suis vraiment motivé et tout. Et elle m'a dit, mais c'est toi qui nous. Et après, elle m'a dit, genre, tout le monde disait, le petit qui nous casse les couilles par mail, ils ont dit, ah, il doit avoir la niaque, donc on va le prendre. Donc, le petit conseil que je pourrais répéter qu'on m'a
donné, harceler.
C'est vraiment, n'hésitez pas. La ligue du LOL, c'est vraiment ce qu'on vise. Non, pas du tout. Non, mais faut pas hésiter à forcer quand on a envie de faire quelque chose. Sauf si c'est quelqu'un et que si la personne dort à côté de toi. Voilà. Sauf si c'est une relation sexuelle.
Cyrus, ton stage de 3ème.
Alors moi, pareil, un truc qui me branchait grave, c'était.
c'était le rock.
Non, c'était l'observatoire.
Et les pantalons, pas de def.
C'était l'observatoire de Meudon.
Et l'observatoire
gros,
de Meudon.
J'ai fait une lettre à l'observatoire en mode, genre, tu sais, sur papier. Avec l'encre.
Calligraphie en luminure
ouais,
et
ouais,
tout.
Ouais, voilà. Non, mais genre, c'était pas écrit par ordi, machin. C'était une vraie lettre à la main, quoi. Mis dans une enveloppe avec un seau. J'avais mis un seau.
Wow. Tellement stylé.
J'avais fait fondu de la cire dessus. Et j'ai mis mon seau, tu vois.
Tyrion Lannister.
et ils m'ont jamais répondu. Donc finalement, je suis pas allé.
Ah merde. Ça se termine si mal, cette histoire.
et non, en fait, en bas de chez moi, il y avait un magasin d'informatique. Un magasin d'informatique dans lequel qui réparait des ordis et tout. Et en fait, je suis allé là-bas. Et donc, j'ai passé mon stage 3ème à réparer des ordis. C'était assez intéressant. Un peu pour le taf et beaucoup pour le mec avec qui j'étais. Le taf, bah, du coup, ça m'a permis de comprendre juste comment marchait un ordi. Et que moi qui n'étais pas du tout bricolo, machin, je me suis dit, ok, en fait. C'est juste la peur qui m'empêche de regarder ce qu'il y a dans mon ordi. Mais en vrai.
Mais au final, quand tu sais disséquer un ordi, tu sais disséquer un humain. C'est la même chose.
Et le mec était super cool. Et il m'a offert, à la fin de mon stage, il m'a offert Le Petit Prince, le bouquin.
Stylé. Il a plutôt fait un ordi quand même. Ça,
ouais, c'est ce que je m'attendais. Il m'a offert un MacBook. Ouais.
Non,
il m'a offert un bouquin à 8€.
Non, en plus, c'était super mignon et tout. Genre, il m'a dit, t'as lu ce truc? Je lui ai dit, non. Et après, c'était au début du stage que j'ai dit ça, tu vois. Et à la fin du stage, à un moment, il est parti. Il est revenu, il fait, au fait, je t'ai acheté un truc. Et il m'a laissé avec ça.
C'est stylé d'être reconnu par quelqu'un qui t'a un peu élevé, parenté. C'est stylé qu'il t'ait offert le bouquin alors que t'avais dit au début.
Non, ouais. Il y a un côté manga.
Un moment un peu.
Non, mais il y a un côté manga.
Non, mais grave, surtout que
mais
ce
oui,
mec-là.
Mais oui, il y a un côté un peu sensei qui te donne le truc et tout.
Exactement.
C'est beau.
Surtout que ce mec-là, dans la boutique, il se faisait un peu bâcher par le boss, tu vois. Mais lui, c'était un mec vraiment humain, machin. Il s'en foutait de...
Les autres, c'était des robots.
Non, mais...
Bienvenue. Regarde, il est asiatique, mon robot, je sais pas pourquoi.
Mais voilà, c'était le sage avec la barbe blanche et tout. C'était,
stylé. Il avait quel âge, genre
31. Quand t'es petit, t'as pas la notion. Ouais.
Il s'appelait Benjamin.
J'avoue, j'en sais rien. Il devait avoir 55 quand j'étais petit. Donc...
Il avait vraiment une barbe blanche ou c'était une image?
Non, une bonne barbe blanche.
Ouais. Ah ouais, d'accord.
Tu l'as revu depuis et tout?
Non.
Tu veux lui laisser un petit mot?
Non, mais ça existe plus, la boutique, elle existe plus.
Ok.
Waouh, mais lui, il existe peut-être toujours. Ouais. Tu sais. C'est pas parce que ta boutique, là où tu travailles, ça ferme que toi, tu fermes.
Mais c'est marrant parce que c'était un peu. Putain, alors là, je digresse de ouf. Hein. Je digresse ou pas?
Vas-y, bon, c'est le podcast de la digression, toi.
Non, mais genre, il y avait un
le
petit.
Quoi
podcast de la digression.
Ouais, non, t'as dit podcast, mais. Ah, podcast.
Non, mais ouais, il y avait un côté. Genre Socrate moderne, dans le sens où, en fait, tu vois, genre même sa boutique, il y avait un hibou grec.
Tout ramener à la philo tout le temps, c'est chiant, Cyrus, à chaque fois. Dès qu'il y a la lucarne, tu.
Il y avait un hibou grec.
Attends, comment je sais que l'hibou, il est grec?
Bah, parce que, il y a une notion que j'ai pas.
Parce qu'en gros, c'est
il avait la tête de Nikos à Yagas.
Oh putain, les gars! C'est fort. Parce que c'était le symbole de Minerve, c'était le symbole de Athéna.
Ah, t'étais tellement un petit relou.
Okay, donc c'était sûr.
Et donc ils l'ont mis pour ça parce que c'est le symbole de sagesse, etc. Machin. Et donc et même le nom de la boutique, je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc qui sonorité grecque.
Alors que leur boulot c'était de vider des historiques de porno de vieux monsieur qui venaient que leurs ordi.
Est-ce que t'as pas fait un virus? Est-ce que t'as pas fait un stage dans un grec kebab et t'as tout imaginé?
Et en fait, il prenait les commandes sur le truc. Il prenait les commandes sur un ordi et lui, il a tout mélangé.
C'était grave pas un hibou, c'était un vieux pigeon. Et lui, il a tout imaginé.
Non, c'était vrai.
Est-ce que t'as un message de haine, par contre, pour l'observatoire de Meudon? Parce que tu t'es quand même chauffé comme jamais, quoi. Peut-être qu'ils se sont dit, il vient du clergé, on peut pas l'accepter.
Moi, je pense qu'ils se sont dit, waouh.
Il vient du Moyen-Âge.
Je pense qu'ils se sont dit, weird. Et donc, je comprends, tu vois. Non, mon message,
il a clos l'enveloppe avec son muspère. Ils ont pas vu un saut. C'est un gamin chelou. Non, personne n'a jamais fait ça. Vous avez jamais envoyé une lettre d'amour avec du sperme? Non, ok. Non, non, moi non plus. C'était pour vérifier. Allez-y. Pardon.
Non, mon message c'est ne faites pas, faites des trucs conventionnels quoi. N'envoyez pas de.
Non, ouais. Pire message. Ne soyez jamais excentrique. Refusez toute originalité.
Restez dans les normes.
Arrêtez de rêver, non,
mais...
putain.
Non mais pour une recherche de taf ou de stage.
Eh mec, t'as fait fondre une bougie sur ta lettre. C'est un peu normal qu'ils disent non, non.
J'sais oui, pas voilà. Non mais voilà, faites pas ce genre de truc.
Mais pourquoi tu l'as fait? Tu t'es dit ça va les impressionner? Ou tu l'as fait pour
je me suis dit, ça fait putain ça fait hyper sérieux ça fait et ils vont pas passer à côté tu vois ça va pas passer inaperçu
Je pense qu'elle est encadrée dans le hall du l'observatoire de Meudon.
Non mais
et
mec,
les gens passent devant
moi je pense que ça a attaché leur jean genre la tu sais la bougie elle a fondu.
Moi je pense surtout que à mon avis le temps qu'ils le reçoivent quand ils l'ont reçu la cire était cassée en fait.
Ah merde, donc pas
parce
du tout
parce que une fois je l'ai envoyé à quelqu'un j'ai vu le résultat.
Attends, t'as envoyé? Ouais, c'est ça.
Mais mec, une fois que t'as un seau tu l'utilises à balle, mon gars.
Ça coûte 2000 balles donc du coup quand même obligé de.
Attends, tu l'avais fait graver à ton nom et tout. C'était un petit C.
Il a envoyé une lettre au Père Noël, il l'a mis un gros.
Mais bref, en gros, avec la poste moderne, et eh ben. Ah, c'est marrant de dire poste moderne. Parce que du coup, c'est plus moderne.
Ouais.
Intéressant. Non mais.
Il prend des notes pour. Intéressant. On dirait un méchant
en...
qui veut.
Ouais, c'est ça, un tueur en série.
Il veut dominer le monde.
Avec des mots. Ouais. Laurent Romeshko, mais méchant. Intéressant. Je peux chambouler les gens avec ma syntaxe. Ma logorée peut tuer du monde.
Et du coup, ouais, moi, mon stage de 3ème, donc chez mon oncle.
Mais on s'en bat les couilles de mon stage de 3ème, putain!
Allez, vas-y, Tom.
Non, j'étais à mon oncle qui avait une librairie ésotérique.
Mais c'est même pas ce que ça veut dire, ésotérique. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait genre, je connaissais, mais en vrai, je sais pas.
Ouais. C'est tous les trucs des symboles et tout. Ils
de magie.
Ouais, pas magie, Sylvain Mirouf.
Oui,
plus,
non.
Psychique.
Ouais, magie noire et tout, quoi.
Connectons-nous avec les ondes et tout.
Les chakras,
genre,
tu vois.
D'accord.
Genre table de Ouija, tout ça.
Ouais, un moment
ouais,
plus sérieux.
Autres, ouais.
Ah ouais.
On vendait des pendules, des boules de cristal et des tenues pour les francs-maçons à Bordeaux.
Mais quelle est la clientèle?
Franc-maçonne.
Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un se dire on n'est pas dans une boutique de francs-maçons. Genre, attends, on a 20 minutes à tuer,
non,
on fait quoi? On fait Zara ou on fait la boutique de francs-maçons?
Non, mais
ça n'arrive pas.
Il doit y avoir des curiosités, il y a plein de gens qui.
Ouais, voilà, c'est des trucs un peu spirituels et tout, tu vois. De numérologie, les trucs comme ça. Moi, j'avais lu un bouquin trop intéressant sur les symboles et les animaux et tout. C'est un peu ce délire-là, quoi.
Ok. Ah, et du coup, votre boutique, elle défie à Dieu, quoi.
Voilà, c'était un peu ça.
Super.
D'accord.
Mais non, c'était.
Vous vendiez des stylos?
Oui, mais
okay. Il y avait des blocs-notes,
des stylos qui lisaient l'avenir. C'était les seuls qui pouvaient.
Tout est relou.
Tu peux écrire que l'avenir
et
dessus.
Et des blocs-notes en papier d'Arménie. C'est les seuls.
Ce serait marrant que ce soit une boutique avec des trucs classiques, mais il y a toujours un petit truc relou. tu viens et tu sais, t'es en mode. Vous avez une boîte de Kleenex? Oui. Mais quand vous vous mouchez dedans, il y a trois sorts qui se réalisent. Non, je veux juste me moucher, mec.
J'ai de la mort.
Vous avez un chargeur téléphone? Oui, mais il charge aussi votre passé. Non, non.
Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit comme métier à Nice?
Moi, je suis de la team, comme beaucoup de gens, de je savais pas quoi, je savais pas quoi foutre.
Placement produit.
Je suis team, je savais pas quoi foutre, j'étais perdu. Mais j'ai toujours eu grave confiance en moi.
C'est là, plus c'est important.
Et ça m'a aidé à garder le cap, tu vois. J'ai toujours été en mode, alors là, je sais pas ce que je vais foutre.
Mais t'avais pas un kiff petit, même un truc inatteignable, tu vois, genre footballeur, pompier, contrôleur de gestion, un truc.
Franchement, j'ai
danseur.
Non, je vais te dire la vérité, j'avais aucun... j'avais pas d'estime de moi, mais j'avais confiance en moi. Donc vous imaginez un peu ce que ça donne. Ouais. Ça me donnait genre, je me disais, je ferais jamais un truc fou, mais je vais trouver, t'inquiète. Et en fait, j'ai tenu jusqu'à maintenant en me disant, je vais trouver, t'inquiète.
C'était brouillé.
Mais donc, c'était ça mon leitmotiv.
Y a rien qui t'inspirait?
Y a rien qui m'inspirait, mais en fait, là maintenant, le métier que je fais, inconsciemment, toute ma vie a été jalonnée de ça, tu vois. Ma mère, elle est dans
jalonnée.
L'artistique.
Laurent Romeshko.
Intéressant. Et là, arrêtez mon exutoire. Intéressant.
Donc, il a fait trembler le monde entier.
On est sur un podcast où on ne peut pas dire des mots de plus de 3 syllabes.
Non.
En gros, ce qui résume un peu tout ça, pour finir, c'est que quand moi, j'ai fini par faire le métier que je fais maintenant, personne n'était étonné dans mon entourage, tu vois. Comme si, en fait, j'étais toujours en train de faire ça.
Comme si c'était
alors,
logique.
Ouais, alors que moi, j'étais en mode, vous avez vu? Le hasard a fait que... Et tout le monde est en mode, bah non, mec, c'est pas le hasard. Non, t'as toujours dit
on
que...
A vu,
t'es inscrit au cours Florent depuis 7 ans, quand même, réalise.
T'as dépensé 8000 euros.
Ouais, réalise.
Non, mais c'est vrai que tu faisais du théâtre et tout. Quand
ouais, je faisais du théâtre, mais voilà, tout ça, ça arrivait petit à petit. Et je me suis rendu compte, un bout d'un moment, il a fallu que je me dise, mais c'est mon taf, en fait.
Ouais.
Pourquoi je vais à l'école?
Oui, c'est dur. C'est vrai que dans les métiers créatifs, c'est dur à un moment donné, ou même dans les métiers où t'es un peu seul, c'est-à-dire que les métiers freelance ou quoi, c'est dur à un moment d'avoir les couilles de dire, ok, bah je suis auteur.
Mais ça devrait avoir le...
ce cap là il est
voilà je le...
ça devrait avoir un nom ça le...
l'entre deux comme ça
le c'est comme non, un... le moment où tu te dis mais c'est comme un... mais pourquoi je fais des études de coréen à la fac là ouais, c'est ça que je faisais moi. Et je me suis dit je fais pour faire semblant là, c'est pour avoir l'air normal dans la société, alors qu'en fait à côté je gagnais déjà de l'argent avec le théâtre.
Alors le nom c'est pas quoi, c'est pas genre trouver sa vocation?
Ah ouais, c'est peut-être ça.
J'ai en discuté avec un humoriste montréalais qui s'appelle Adib Al-Khalidé, et on parlait de du moment où tu assumes que tu es un artiste. Et que c'est vraiment dur en fait. C'est dur de se dire. Parce qu'il y a un côté un peu. Je suis condamné. Et je sais que moi, la première fois que j'ai dit. Avant, je disais. Je fais des blagues. Ou je fais de la télé. Ou truc. Mais la première fois que j'ai dit. Je suis humoriste. Je suis un artiste. Je suis réalisateur. Et en fait, je me rends compte que plus tu le dis, plus ça. C'est vraiment comme une sorte de coming out. Tu sais, le fait de le dire. Ça t'aide à. Ouais, si tu le fais exister en toi en fait.
Ouais, tu le rends réel.
C'est très particulier. Mais.
Il y a une sorte de méthode couée aussi. Presque tu te convains toi-même.
Ouais, exactement.
Genre, non, mais ouais, je suis un auteur. Je suis un auteur.
Tu voulais faire quoi d'ailleurs, Pana, quand t'étais petit?
Je voulais être architecte. Quand j'étais plus jeune, je voulais être politicien. Je voulais faire de la politique.
Okay.
Après, j'ai voulu faire des blagues. Après, j'ai voulu être architecte. Okay. Après, j'ai revoulu faire des blagues. Parce que j'ai découvert les blagues en 6e. Donc, en 6e, je voulais faire des blagues. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas un vrai métier, tu peux pas gagner des sous. Et après, j'aime bien l'architecture. Et j'ai une petite anecdote marrante. Quand j'ai
c'est
volé.
C'est moi qui ai construit la Sagrada Familia. Voilà. Personne ne le sait. Voilà. Mais...
c'est moi, Gaudi. Voilà, c'est un, voilà. un petit surnom. Non, je... Quand j'ai volé les numéros d'attaché de presse, c'est incroyable, toutes les anecdotes vont être liées. J'ai appelé Gérard Depardieu. Et donc je l'ai appelé et tout. Et je dis oui, bonjour, je m'appelle Panayotti, je fais des interviews, j'aimerais beaucoup t'interviewer et tout. Et il me dit c'est qui, je comprends pas, c'est quoi cette merde et tout, d'où t'as mon numéro? Et je dis bah ça vous regarde pas. Et je le tutoyais, vous voyez, chelou, tu sais, j'étais un peu impressionné, mais je me disais faut porter ses couilles, parce que c'est ça un peu. Ils se disent oh putain, il a des couilles, ils sont intéressés, tu vois. Et du coup, il me dit je comprends pas, tu vas être journaliste? J'ai genre 13-14 piges. Et je lui dis ouais, et il me dit c'est vraiment un métier de PD, tu veux faire un métier de PD? Ouais, non mais pas forcément, mais je comprends pas, j'aime bien poser des questions, être curieux. Et il m'a dit tu veux faire quoi d'autre sinon? Et je dis bah j'aimerais bien être architecte. Et il m'a dit bah regarde le travail de, et il m'a sorti genre 5-6 noms d'architectes japonais, et il me les a épelés, et j'ai écrit et tout. Et il m'a dit rappelle-moi demain quand t'auras regardé. Et je suis allé regarder pendant la nuit, je te jure. Et le lendemain je l'ai rappelé. Et il m'a dit alors t'as eu le temps de regarder? Il se souvenait de la conversation et tout. J'ai dit oui. Il m'a dit bah voilà c'est super, et c'est ça qu'il faut faire au lieu de poser des questions. T'as pas besoin de passer ta vie à courir derrière les gens, faut que tu fasses des trucs, ok? Et il a raccroché.
Putain,
c'est wow. Ouf.
Incroyable.
Et je l'ai pas écouté parce que je fais des blagues. Mais
plus efficace que Gandalf en deux conversations.
Exactement.
Bah si tu l'as écouté parce que tu fais des trucs.
Ouais mais ouais, bien sûr. Les architectes japonais.
Les architectes
ils sont où là?
Ouais. Oui mais c'est un prétexte. C'est un prétexte.
Ça a permis de bâtir sa carrière.
Moi je suis deg.
C'était pas le fond de.
Mais moi j'aurais aimé qu'ils construisent des
mais donc
trucs.
c'était un beau moment. C'était marrant. Et je me souviens après je lui avais envoyé
ça, c'est
par
une cool
SMS.
Anecdote.
Ouais, il est vraiment stylé Depardieu.
Je crois que c'est vraiment un des mecs les plus droits dans ses bottes. Un des mecs qui a vraiment le plus. J'ai
je
des
crois
anecdotes.
Qu'il met pas beaucoup de bottes. Hein. Moi j'ai jamais vu trop de. Je crois pas trop.
Oh mon dieu.
Moi, mais... je veux manger autant de trucs que lui dans ma vie.
Et pas mourir.
Bah, il est pas mort.
Non. Il a eu des
on
gros
sait
trucs.
Pas, hein, on sait pas s'il
le...
est pas mort.
Il y a le Tabs sur Gérard Depardieu de JB qu'on avait reçu ici de Tef from the Click qui raconte sa vie.
C'est
il
l'un de ses meilleurs
complètement
tabs.
Ouf.
Les autres sont bofs, je trouve. Je rigole, c'est qui JB?
Cyrus, tu voulais faire quoi quand t'étais petit?
À 9 ans, j'étais dans une agence et tout, et j'avais fait du mannequinat ou des films ou des trucs à masse.
Des castings et tout.
Des castings et tout. Mmh. Donc ça, c'était une piste que quand je commençais à apprendre, et mes parents ils ont coupé le truc en mode bah d'abord tu fais tes études.
D'abord tu fais des lettres, après.
Mais non, j'ai pas de job. J'arrive pas à répondre à cette question.
Ouais bah en vrai c'est un peu. En fait,
t'avais pas de job rêvé?
Non mais à chaque fois j'invente. Enfin à chaque fois que je donne une réponse différente, mais parce qu'il y en a plein en fait. Tu vois genre il y a un moment je voulais être
archéologue. Je sais pas pourquoi ça.
Ouais archéologue je voulais.
J'ai
un moment...
une période. On a tous eu un peu la période archéologue.
Patron
non.
Zoo.
Ah,
si,
t'as
si,
pas
si,
une période.
Non. Non mais en vrai si je vous rejoins parce qu'il y a un moment j'étais à fond Égypte. Ouais. Tu vois. Mais j'ai pas voulu être archéologue jusque là. Vous la racontez vous.
Non si mec je me souviens. Mais
j'ai juste allé en voyage une fois.
Ouais voilà, je vais y aller.
En gros je voulais être. Mais c'est triste. Enfin, c'est pas. Enfin, c'est... je trouve pas ça.
Je voulais être une femme, mais je suis bloqué dans mon corps. Ok, d'accord, Cyrus.
Non, je voulais être homme d'affaires.
Je voulais être heureux, simplement.
Comment ça? En gros, je comprenais pas trop ce que c'était.
Ok.
Mais tu voulais porter un costume, tu voulais la
en
stature,
gros,
en fait.
C'était. Effectivement, il y avait ce truc de costume, il y avait ce truc de voyager, il y avait ce truc d'aller voir des gens différents, signer des contrats, signer des machins, etc. Et mon père faisait un peu ça, et genre, je voulais être businessman, quoi, en fait.
Tu voulais des responsabilités, quoi.
Voulais, ouais, je crois.
Mais tu voulais être comme papa en vrai.
Ouais, ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais.
Ça va, mec?
Ouais,
ça va. Est-ce que.
Non, mais c'est ce que un peu ce que je suis devenu, mais dans le domaine
t'as
de l'art.
Un t-shirt Mickey
ou de
en ce moment, donc.
Non, mais c'est vrai, t'as un homme d'affaires 2.0. Quoi.
Bah non, mais c'est gérer des projets, etc.
2.0, c'est qui ce chroniqueur dont on n'est pas couché? Christine Angot, vous êtes un peu un rappeur 2.0, Big Flo et Olive. Les relous.
Et tu vois, c'est ce que je fais aujourd'hui, genre, c'est pour ça qu'il y a pas qu'une chaîne, c'est pour ça qu'il y a l'anti-sèche, il y a Craft, ouais. etc. C'est genre, en fait.
Tu veux être millionnaire, quoi. Finalement, sur le dos de tes abonnés.
Finalement, ce que je voulais faire, ce côté homme d'affaires, bah, je l'ai gardé, quoi.
Entrepreneur.
Tu voulais
entrepreneur.
Avoir, c'est avoir
ouais.
des responsabilités.
Ouais, ouais.
Ouais, c'est ça, entreprendre. Mm.
Et toi, Tom?
Moi, petit, j'ai une période d'archéologue, mais plus dino et tout, Jurassic Park et tout, on m'a atrocité.
Tu peux dire, dinosaure, hein, c'est pas le genre de mot qu'on a besoin d'allonger.
Non, je chorlais dino. Vraiment, je voulais trouver les ancêtres de Charlie Dino. C'était tout ce qui m'intéressait.
Tous les ossements.
Ouais, c'était juste ça, quoi. Et ouais, dinosaures et tout. Et j'ai une grosse période journaliste sportif. Où vraiment, j'étais très fan de sport et
ça,
tout.
C'est,
et
ça, je suis sûr que c'est plus vers le collège, ça.
Mais ça, c'est cool quand t'es passion, c'est des trucs que tu peux transformer en job.
Ouais.
Genre, moi, au collège, je
sauf jusqu'à ce que t'arrives au concours de journalisme et tu te dis yes, je vais pas faire ça.
C'est non, mais, trop de travail. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement loin de, par exemple, moi, quand au collège, j'étais fan des cartes Magic. À aucun moment,
ouais,
tu dis
je vais devenir une carte. C'est trop dur.
Non mais voilà. Tu vois, genre.
C'est marrant que tu dis ça parce que moi il y a un truc que je dis souvent, c'est que moi j'ai toujours eu, là vous direz, il se la raconte, mais un don pour les jeux vidéo, tu vois.
Waouh, il se la raconte.
Non mais j'ai toujours eu plus d'aisance que
à
les
Paris,
autres.
Il a gagné le tournoi de quoi.
J'ai gagné plein de tournois de
c'est
trucs comme ça,
ouais,
de
c'est
Call
c'est
of Duty.
Premier,
ouais. Ah ouais. Et même quand j'étais petit, j'ai toujours eu une aisance quand je jouais avec des mecs plus vieux, je les battais, tu vois. Et en fait, dans ma tête, j'ai toujours su que c'était pas un métier, ça. Et en fait, je voulais pas être créateur de jeux vidéo, je voulais pas être développeur, ça me faisait chier. Je voulais juste jouer, tu vois. Je me suis dit, c'est pas un métier. Et là, maintenant que je suis un peu vieux et qu'il y a le e-gaming et tout, je me dis, putain, si je l'avais su petit, je suis sûr que j'aurais cru à fond là-dedans.
Alors déjà, un, c'est peut-être pas trop tard.
Et deux, c'est e-sport plus que e-gaming.
Maintenant, je le kiffe. Maintenant, je le kiffe, le taf que je fais. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, si un petit week-end, je peux aller taper des mecs et prendre un 500 euros.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
C'est cool.
Je pense que quoi que ce soit, si t'es extrêmement bon dans un domaine et que tu pousses ce domaine à fond, tu trouveras le moyen de le monétiser, entre guillemets.
Ouais, mais c'est
que tu trouveras le moyen d'en tirer de l'argent.
Mais t'es d'accord que le jeu vidéo, à l'époque, tu vois, ça a vraiment un côté genre, surtout même par rapport à ce que les parents te disent du truc, tu vois. Inconsciemment, tu te dis c'est un hobby, tu vois. Tu peux pas te dire que tu vas en faire un taf.
Bah si.
Parce que en fait, la différence, c'est pas. En fait, c'est là où c'est devenu un sport, c'est là que tu t'es dit ça peut être de l'argent. Mais en fait, en vrai, un hobby, ça devient. Enfin. À part si c'est un sport, ça devient... si t'es un athlète dans un truc, là tu gagnes de l'argent. Mais en vrai, de jouer, tu vois. C'est comme si un mec qui joue à puissance 4.
Non, mais en fait.
Il n'y a pas de métier de puissance 4. Parce que je suis fort aussi. Si vous...
en gros,
trouve-le-moi, s'il te plaît.
En gros, le truc, c'est que je pense qu'il y a deux choses. Il y a être extrêmement fort dans un truc et genre pousser son skills. Et le deuxième truc, c'est le faire savoir. Tu vois, faire savoir au monde, à l'univers, que, ok, moi je suis une brute là-dedans et sachez-le, tu vois. Et en gros, peut-être que s'il n'y avait pas eu le e-gaming, enfin le e-sport, mais que genre les gens savaient que t'étais fort, tu vois, genre parce que je sais pas, tu l'avais montré sur internet ou quoi, peut-être que des développeurs de jeux t'auraient contacté pour que tu les aides sur des feedbacks de joueurs, tu vois, ce genre de choses, j'en sais rien.
Avant les réseaux sociaux, quand on était kids et tout, t'avais pas tout ça, t'avais pas YouTube et tout pour montrer tes skills.
T'avais ce truc de, je sais pas, t'envoyais des cassettes. Il y a des gens qui allaient voir les gens.
Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vrai
c'est
que
c'est beaucoup plus dur. Évidemment, ça n'a rien à voir.
Internet, ça a facilité
bien
tout
sûr.
Ça en fait.
Ah,
et c'est pour ça que ça tue. C'est qu'en fait, ça nous donne l'espoir de pouvoir tout rentabiliser. Enfin, rentabiliser, moi je sais mot.
Mais il y a presque ce truc de il n'y a plus d'excuses en fait.
Ouais.
Tu vois, c'est...
Non, je suis d'accord avec ça.
Et c'est là où c'est encore plus dur pour les gens qui ont peur, entre guillemets, de faire. Parce qu'il y a telle pression de dire, regarde, tous ces gens font, et moi je le fais pas. Et donc c'est à double tranchant un peu.
C'est un truc qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune, mon père, je me souviens, il m'avait dit. Tu sais, moi je pense qu'il y a un autre facteur qui est compliqué, c'est quand t'as la chance ou pas la chance d'être avec des parents qui vont te pousser dans ta passion.
Ah bah grave. Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de parents qui croient pas au mot passion. Par exemple, je sais que moi j'étais entre les deux, ma mère, elle a toujours été avec moi dans ma passion, etc. Moi c'était vraiment le journalisme quand j'étais plus jeune, et après c'est devenu les blagues, mais elle m'a toujours poussé dedans. Mais je me souviens qu'au bout d'un an et demi de télévision, elle m'a quand même dit, ça faisait un an et demi que j'étais à la télévision, je gagnais des sous, je commençais à me faire reconnaître. Des fois on allait à Carrefour ou à Lidl ensemble et je me faisais reconnaître, il y avait des photos, elle voyait qu'il y avait un truc qui se passait, tu vois. Et elle m'a quand même dit, t'es sûr que tu veux pas être kinésithérapeute? Genre il y avait un truc où elle y croyait pas vraiment, tu vois. Mais pourtant elle a toujours été à mes côtés, ça c'est une chance. Et mon père, moi quand je lui ai dit on me propose la télé l'année du bac, il m'a dit bah arrête les cours. Il m'a dit c'est pas grave, moi je m'en fous du bac.
Alors que mon père a réagi de l'inverse quand je lui ai dit quand tu vois je commence à avoir des rôles dans des ouais. dans des téléfilms, des trucs comme ça, enfin tu sais, ouais. tu commences
bah, en fait, c'est
mon père il a fait bah non on fait les cours en premier
bah c'est ça, c'est à quel point tes parents vont renvoyer leur insécurité sur toi ou au contraire se dire
on
que c'est peut-être
confiance.
Tu vois exactement parce que je pense que il y a aussi un facteur en plus, c'est que tu vas briller dans ton domaine si jamais on te permet de briller et qu'on te donne confiance en toi, parce que quand t'es gamin t'as pas cette échelle qui te permet de savoir si t'es bon ou pas bon dans ton domaine, c'est les gens autour de toi qui te disent et qui te font sentir si t'es bon. Et moi mon père il m'a donné un bon conseil un jour, mon père il dit des phrases un peu méchantes mais quand il repense après c'est des bons conseils, et il m'avait dit je me souviens
travaille mieux fils de pute, c'est un peu méchant
il m'a dit hey, grande salope il m'avait dit fais attention parce que tu sais moi à 17 ans j'ai pris un appartement à Paris et tout pour monter commencer à travailler mes trucs et tout, et il m'avait dit tu sais fais attention parce que pour le moment t'étais le meilleur à Bondoufle, notre petite ville, il m'a dit t'es peut-être le meilleur dans le 91 là-dessus, il m'a dit mais quand tu vas arriver à Paris tu seras jamais le meilleur. Et il m'a dit, il va falloir que tu bosses très dur pour être le meilleur. Et il me dit, dans la rue d'à côté, il y a toujours quelqu'un qui sera plus fort que toi. Et il m'a dit, si jamais tu le sais, dès maintenant, ça ira, tu vois. Il m'avait dit un truc comme ça, mais moi...
Vous vivez tous dans des mangas, j'ai l'impression.
Ça m'a... Et là, il m'avait offert le petit prince. Non, mais ça m'avait fait mal quand il m'avait dit ça. J'étais en mode, ah, il croit pas en moi. Mais
Panayotisan.
Mais... Et après, j'avais compris qu'en fait, non, au contraire, il me prévenait. Il me disait, si jamais tu te reposes sur tes lauriers et qu'autour de toi, tout le monde te dit, mais c'est très bien ce que tu fais, t'avanceras jamais. Tu vois, faut vraiment que tu aies 18 étapes d'avance.
Parfois, les parents, moi, je sais que mon père faisait ça sur certains trucs, poussent, tu vois, mais si toi-même, t'y crois pas.
Ah ouais, c'est, il se passera ça prend pas, bien sûr.
Ah, mais tout dépend de toi, de toute façon.
Ouais. Il y a cette phrase d'un boxeur que je retrouverai si je sors du mode avion, qui est « Pour être un champion, vous devez croire en vous-même lorsque personne d'autre ne le fait. »
Mm.
Et c'est clairement ce genre de choses.
Mm. Il y a une phrase que j'adore. Bah, putain, là, ça devient un podcast un peu de trucs personnels.
On a beaucoup, on rigole oui, beaucoup clair. Moins qu'au début.
Ouais. Mais genre, Anis, il est sur son portable. Genre, il était vraiment le truc d'abandon. Mais bon,
puissance 4.
Il y a une phrase que je kiffe de... Comment il s'appelle? De Jordan, Michael Jordan. Il parle de... D'ailleurs, c'est sur ses chaussures. Il y a un moment, il y a des chaussures où il y a
Nike,
ça.
Il dit Nike.
C'est l'homme dans l'arène. Je sais pas si vous voyez ce truc. Non. Il y avait un super podcast d'une prof.
Ça, c'est le roi, hein, l'homme dans l'arène.
Yes. Il y avait une prof qui. Une prof merci, en merci. Philo qui avait fait un podcast et qui expliquait un peu ce truc de l'homme dans l'arène. Elle disait que le plus dur pour l'homme dans l'arène, c'est pas de combattre l'autre combattant dans l'arène. Le plus dur pour l'homme dans l'arène, c'est de ne pas écouter les 60 000 personnes autour de lui qui crient. Parce qu'il pense savoir mieux faire que lui quoi faire.
Mais c'était des très grandes chaussures pour qu'il y ait cette phrase. Du coup.
Non, il y avait juste l'homme dans l'arène, man versus arena. Et genre, et je kiffe ce truc-là de se dire que là où t'es, c'est vraiment ta place et il n'y a personne qui peut mieux savoir que toi parce que c'est toi l'homme dans l'arène. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde autour de toi te dira toujours, mais moi je sais, tu vois. Il y a toujours un moment où il faut que tu te fasses confiance.
Vous êtes toujours sur Développement Personnel FM. Nous allons continuer cet épisode en parlant du meilleur boulot, justement, ouais. du meilleur taf. Pour vous, c'est quoi les critères vraiment importants pour qu'un métier soit le meilleur et le boulot, voilà, pour le meilleur boulot, il doit avoir quoi comme critère prioritaire, Anis ?
Pourquoi c'est toujours moi en premier ?
Ouais, parce que c'est ordre alphabétique.
Non, je vais dire des trucs un peu bateaux pour commencer. Vous avez
ah, donc marin, tu penses ? Marin, c'est un bon boulot. T'es loin de ta famille et tout ? Je pense pas, je suis pas sûr.
Non, je pensais à Zodiac, être un Zodiac ou être un Yacht. On dit comme ça ?
Ouais.
Non, bah c'est con, mais bon, l'un des trucs les plus importants, c'est d'aimer ton taf à
aimer
fond,
ton taf,
tu vois. Parce que vraiment, j'ai l'impression que, surtout ce qu'on disait avec notre époque, l'ubérisation, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Maintenant, t'as tellement de possibilités que c'est encore plus facile de te rendre compte à 31 ans que ah merde, je voulais pas faire ça. Tu vois, ça arrive, ça arrive encore plus.
C'est vrai qu'à une époque, ton daron il était cordonnier, t'étais cordonnier, ouais. Il n'y avait même pas de question.
Ouais. Et puis c'était même cordonnier de père en fils.
Ouais. Oui.
C'est-à-dire que ça faisait des générations que c'était
cordonnier. L'enseigne du truc, ouais. Cordonnier
de
père
en
fils.
En vrai, même ton nom de famille c'était ça. Il y avait des marques, oui, boulanger, et ça on les appelait comme ça parce qu'il était boulanger, c'est ouf quand même. Et il pouvait pas naître et dire je crois que je vais être peintre, papa. Non! Tu vas faire des baguettes, mon pote.
Moi je suis boulanger, pourquoi tu seras autre chose?
Mais même ce qui est pire, c'est qu'il y en a qui disaient tiens, je serais bien peintre. Bon, c'est pas grave. Il repartait au taf, quoi.
Tu sais qu'il peint hyper bien. Et tout,
non, mais t'en avais quand même.
Le mec qui fait la Joconde dans son café. Allez, c'est l'heure d'aller bosser.
Mais non, mais t'as plein d'artistes quand même. T'as une période où t'as plein d'artistes qui bossaient à côté, en fait.
Mais, c'est, voilà. Mais mec, c'est le cas aujourd'hui.
Ouais, mais ça, non, mais c'est vrai
ouais,
que.
Ouais, ouais,
non, mais
ouais.
Non, mais ce que tu veux dire, c'est que ça, bon, ça rejoint
merci
les artistes.
De
non, mais les artistes, ils ont toujours en fait été pluridisciplinaires. En vrai, on connaît Van Gogh pour ça, on connaît truc pour ça. Mais toujours en fait, pour questionner l'art.
Ils connaissaient qu'un peintre. Les Van Gogh,
un
truc,
les Van Gogh, etc. Les Johnny Hallyday, etc.
Ah, la Bilal Hassani. Il y a très peu d'artistes qui connaissent.
En fait, pour mieux cibler ce que tu tu fais ton art, etc., tu as besoin un peu de, bah, de questionner le truc, de challenger en faisant d'autres choses, etc. Et ça t'aide à... C'est ce qui te l'anime. C'est ce qui
ah, c'est ça que je voulais dire, justement. Ouais. C'est que la chance qu'on a de notre génération, c'est qu'on a une, toujours une, on a une période d'éveil de ta sensibilité, de tes envies qu'avant, il n'y avait pas. J'ai l'impression que mon daron, il a tout de suite un peu plongé dans la vie, et les potes de mon daron aussi. Y a... Nous, on a vraiment une période, j'ai l'impression que jusqu'à nos 19-20 ans maintenant, on a la chance de pouvoir se questionner, tester, d'avoir une sorte de période soit d'éveil artistique. Moi, j'ai vraiment vécu une période d'éveil artistique quand j'étais plus jeune, où je me posais la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire artistiquement parlant, et ou une période d'éveil simplement sensoriel pour savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir aimer en termes de goût. Juste la chance qu'on a de pouvoir se poser la question aujourd'hui de qu'est-ce que j'ai envie de faire, et surtout qu'est-ce que j'ai pas envie de faire.
Mais c'est ça encore, c'est aussi une chance, enfin je pense personnelle, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui même aujourd'hui l'ont pas, et c'est ouais, aussi cette chance ouais, d'avoir ouais. évolué dans des familles et dans des
bien
milieux
sûr.
Sociaux
et moi, bien sûr.
Et moi je dirais même que c'est
juste
une chance,
une plus grosse opportunité maintenant, il y a juste plus de gens qui peuvent le faire, heureusement.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette possibilité d'avoir autant de choix, etc., ça met aussi la pression sur les gens qui se trouvent pas, tu vois.
Bien sûr.
Il y a un effet inverse, tu
oui,
vois.
C'est
parce
ce
que nous,
tout à l'heure,
c'est ça, j'ai vu que tu essayais de dire ça, donc je me permets de développer. Moi, on bosse dans l'artistique et ça, et tout ça, mais moi, j'ai des potes, et bah, ça leur met la sion près, tu vois. Ils ont mon âge, ils disent, putain, Anis, il s'est tellement trouvé, alors que je suis pas millionnaire, tu vois. C'est juste.
Ouais.
Bah,
oui. Allez, arrête.
Non, c'est juste, j'ai l'air d'être
en or. T'es arrivé en jetpack, hein.
C'est juste d'avoir l'air un peu plus épanoui, et en fait, je sais même pas si c'est mieux maintenant, tu vois, parce qu'en fait, même...
voilà,
c'est pas.
Mais je pense pas que tu sois plus heureux, en fait. C'est ça,
ouais,
le truc.
Moi aussi, je suis d'accord. Ouais.
On se disperse un peu, les gars.
Ouais,
c'est hyper intéressant, mais juste qu'on se disperse un petit peu.
On continuera cette discussion après le podcast.
Donc toi, le critère numéro 1, c'est vraiment faire un taf qu'on aime avant tout, quoi.
Ouais, je pense vraiment, ouais.
Pana, toi aussi, c'est la prio.
Ouais. Non, je pense que vraiment, il y a ce truc-là d'avoir l'envie de se lever le matin. Je pense qu'il y a vraiment, ce truc-là de quand tu te lèves, une excitation. Je pense que c'est ça. C'est vraiment
ça. Bah, ça
c'est vraiment les
kiffer,
Ouais, bien sûr. C'est vraiment les Ouais, mais tu peux quand même kiffer. Je vais donner un exemple personnel encore, c'est horrible, mais genre à la télévision, moi j'ai démissionné parce que j'avais plus d'excitation d'y aller. J'avais l'impression d'avoir fait le tour et j'ai eu le sentiment, même si c'était une manière de développer mon artistique, que j'ai appris plein de choses et que j'étais dans une équipe merveilleuse et tout. Je trouvais du bonheur dedans. Quand je le faisais, il y avait du bonheur, mais pour autant le matin quand je me levais, je sentais pas le truc.
Ça faisait pas vibrer.
Après, c'est différent parce qu'il y a un point de vue artistique. Et c'est là où je te dis que quand tu te dis que t'es artiste, il y a un côté condamnation. C'est qu'on va toujours être dépendant de notre corde sensible. Ce qui fait qu'on se sent à l'aise ou pas à l'aise en soirée. Des fois, on le contrôle même pas, tu vois. Il y a un truc où on contrôle pas vraiment nos émotions. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu décides que ton boulot, ça allait être de poser sur du papier ta corde sensible, et bah, elle devient un peu la dirigeante de toute ta vie. Du coup, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que j'étais à la télé à genre 17-18 piges. J'ai gagné vraiment très bien ma vie. Je me faisais reconnaître. C'était vraiment cool avec les meufs. Enfin, il y avait tout ce que je kiffais quand 2 ans plus tôt. Et pour autant, il y avait un truc où au fond, je sentais que j'étais pas bien. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de démissionner pour aller m'enfermer au Panab dans une cave pour jouer genre devant 60 personnes. Et il y a vraiment un moment où j'étais en mode putain, c'est dur. Mais pour autant, le matin, quand je me levais et que j'allais jouer le soir, je sentais pendant les 2-3 secondes du réveil, je sentais une plus grosse excitation quand j'étais à la télé.
Du coup, rapidement, avant de parler des meilleurs métiers, on aimerait bien qu'on liste les critères. Donc, on est tous évidemment d'accord sur faut que c'est un métier qui te fasse plaisir. Juste très rapidement.
Plaisir, le challenge.
Voilà, très rapidement, si on en met en avant, sans rentrer dans les détails, de est-ce que c'est plus important d'avoir du temps libre, la pénibilité, les risques et tout.
On n'a pas parlé d'argent, mais je pense que.
Non, l'argent, on est d'accord.
Moi, je le prends en compte.
Ok.
C'est-à-dire que, genre, même si c'est un job que je kiffe, etc., machin, s'il me permet pas de bouffer, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, c'est que je pourrais pas kiffer le... Enfin, c'est qu'il y a... Il faut qu'il ait un minimum et
qu'il
me permette de moins survivre.
Il y a un minimum, mais après... Il y a des métiers avec certaines stabilités. Ouais. Par exemple, comédien, avec l'intermittence, tu peux t'en sortir, alors que techniquement, t'es pas censé bouffer avec ce boulot. Quand tu débutes, il y a quand même des trucs un peu...
Ouais.
Je pense que l'argent, moi, je le compterais pas.
Bah, surtout, en fait, on parle avec le prisme de notre, parce qu'en fait, là,
on est blindé.
Non, mais au-delà de ça, on est dans un équilibre où on sait que des fois, on doit faire des choses qu'on aime moins, qui
Exactement.
Sont mieux payées.
Ouais.
Et des fois, on fait des trucs qu'on adore.
Ah, moi, j'ai fait une pub McDo, mon pote, hein, mais c'est ça qui paye mon loyer.
Non, mais et en vrai, des fois, on fait des trucs qu'on adore et on n'est pas payé. Ça nous fait tellement pas chier.
Ouais.
Donc, du coup, nous, notre rapport, il est un peu biaisé, je pense, par rapport à...
Mais
à la norme.
Il y a un truc, un autre critère dont on n'a pas parlé, c'est que je pense que c'est important.
Le cul,
c'est
le
les tableaux Excel.
Le cul.
En tout cas, moi, je l'ai pris en compte. C'est important d'avoir un job où genre il y a une évolution possible et genre c'est pas plafonné.
Ah grave.
Ah, ok.
Grave.
Ça dépend des jobs, je pense. Mais ok.
Grave. Ouais, je pense que ça dépend moi.
Non mais tu vois, genre par exemple, coiffeur, bah tu peux monter et genre aller dans des salons de
travailler
plus en plus machin,
ou travailler une technique,
et travailler une technique, etc. machin. Mais si par exemple ton job, je dis n'importe quoi, mais c'est t'es spécialiste dans la chaise ticle de IKEA et que ton job vraiment c'est juste, enfin tu sais faire que ça.
Je pense que ça marche pas comme ça. Hein.
Non mais ouais, c'est, non, là...
c'est très bizarre comme exemple.
Non mais là,
mais
les...
que je
non, mais ça
non,
peut
moi
être...
je suis
caissier par exemple.
Moi je suis pas d'accord moi. Je moi pense que par exemple un fermier, il s'en fout de monter en échelon.
Ouais.
S'il a son équilibre et qu'il tient toute sa vie, en mais fait, attends, sa vie.
Là attends, aussi, il y a toujours deux types de personnes.
Non, mais évidemment.
Parce que du coup,
attends,
sous ça,
attends.
C'est la concurrence que tu trouves intéressante.
Repassons, reprends, enfin, remettons
faut,
les
faut
choses.
Faut qu'on avance, sérieux.
Non, mais je suis en train de. C'est important ce que je fais là pour le podcast. C'est que.
Pour qui se prend lui
pour
la France.
Pour l'un des co-créateurs
du
podcast. Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? En gros, c'est important de quand même situer quelque chose. C'est que, évidemment, tous les jobs sont bien pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Genre, y a toujours quelqu'un qui va trouver tel job intéressant. Là, on cherche le meilleur job. Donc, tu vois, genre, on est obligé de prendre des critères qui ne touchent pas certaines personnes.
Je pense que le mieux, c'est de rentrer dans le concret, d'opposer juste là nos choix et de voir sur quels critères on les met.
Moi, je dis non. Non, okay. Je dis non. Je pense que justement, il faut aujourd'hui qu'on dise que le
y a
plus
pas
beau
de
des métiers,
métier, c'est mère,
le
être mère.
Métier, c'est être
non,
maman.
Mais ça, c'est intéressant et c'est aussi pour ça qu'on a plein de trucs à dire. C'est qu'en fait... bah c'est pour ça que je te dis c'est dur quand
bien
tu m'as
sûr
dit,
c'est très subjectif
ça
sinon
très
on
dur
peut faire des catégories
coup,
mais
en fait tout c'est ça qui tue dans votre podcast c'est que tout a une notion qui touche du subjectif
bien
tu
sûr
vois.
Bien
mais
sûr
là c'est l'un des trucs qui touche le plus
non mais c'est pour ça que c'est intéressant
je pense
de...
que même la meuf la plus bonne du monde c'est plus simple
non parce que en vrai c'est difficile de se dire que souvent un individu une des premières choses qui va le définir, c'est son emploi.
Ouais, ça, c'est autre chose. Non, mais je suis d'accord. C'est
pour ça que le
travail de se mettre d'accord sur des critères au début, ça permet de se dire, ok, on est d'accord que argent, machin, machin. Ensuite, on prend nos métiers.
Allez.
Et déjà, ceux qui rentrent pas dans les critères qu'on a dit, ça veut
voilà,
dire qu'au final, c'était des mauvais
ils
choix.
Sautent.
C'était une, faire une manière un petit
est-ce
peu
que
plus
vous
scientifique.
Avez, est-ce que vous avez réfléchi à ça et est-ce que vous avez des
oui.
métiers? Vas-y, Anis.
Ouais, direct.
Bon. Vas-y.
Bah moi, j'ai pensé à enseignant tout de suite, tu vois, prof.
Bien sûr.
Parce que ce qui est con, c'est que moi, j'ai jamais su quoi faire de ma vie. Mais à un moment, je me suis dit, je vais faire ça d'une manière naturelle. Parce qu'il y a un truc de. Ouais, il y a un truc de. C'est sûr pour moi que t'es à ta place. Enfin, tu rentres dans un cycle de la vie. Il y a un truc assez absurde. Et à un moment, moi, j'étais élève de théâtre le matin et prof de théâtre l'après-midi. Et je pense que de ma vie, c'est l'un des moments où j'étais le plus épanoui. Même plus que maintenant. Parce qu'il y avait un truc de. Je servais tellement. J'avais vraiment l'impression d'être tellement utile, d'apprendre. Et de redonner ce que j'ai. Apprendre, redonner ce que j'ai. Je faisais ce qu'on fait avec l'oxygène. Donc je pouvais pas me tromper. On pouvait pas me dire, t'es tellement en train de te tromper là. J'étais sûr d'avoir raison. Mais bon, ça c'est. Je suis pas sûr que ça soit le critère.
Et
mais...
plutôt quelle classe, quel domaine, genre théâtre du coup ou...
Bah non, je pense
primaire.
Que justement, en vrai, on s'en bat les couilles quoi. À partir du moment où en fait, t'arrives à enseigner quelque chose et que tu le fais bien. Et bah c'est bon en fait.
Okay.
Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important que le futur? En vrai, tu vois.
Ouais, t'as un rôle de témoin, de passeur de savoir.
Ouais, t'es juste en train de faire en sorte que notre futur il marche, tu vois. Il fonctionne. Et après, en même temps, c'est aussi pour ça que c'est un métier difficile. Là, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Mm. C'est que si t'es pas paré pour faire ça, et bah tu peux vivre un enfer. C'est une pression. Enfin, moi j'ai jamais eu autant de pression. Avec eux, je les aidais à préparer le bac. Et à la fin de l'année, on faisait un spectacle. J'ai jamais eu autant de pression de ma vie, je crois, que ça. Quand à l'époque je faisais en même temps de la comédie et tout, et que j'avais des tournages et ça, je voyais la différence. Genre, je me réveillais à 3h du mat parce que ça me stressait.
Mais t'es responsable du coup.
Ouais, je suis responsable. Il y a les parents qui vont venir leur voir. Tu sais, c'est de la merde. Hein. Tout le monde s'en fout.
Non, mais
c'est dans mon microcosme à moi. Des fois, je prenais du recul. Je me disais, mais il y a des trucs, j'ai eu plus de pression. J'ai bossé sur des OP. Il y avait beaucoup d'argent qui était en jeu. Ça me mettait moins de pression que de là de m'occuper de gens. Ils ont un cerveau, un cœur, etc. Une famille. Je me disais, mais là, je suis cuit. Je suis dans la merde. Donc, bref, il y a ça. Et l'autre truc que je me suis dit par rapport à moi, je vais essayer de faire vite, mais une fois j'ai bossé avec des jeunes pareils dans le même truc, qui trouvaient pas de taf, etc. En gros, on appelle ça des secondes décrocheurs. Bon, en gros, c'est des racailles qui ont arrêté l'école. Et je les aidais, je faisais du théâtre avec eux. Et en fait, on a fait un exercice avec un mec qui s'occupe de ça, qui consiste à trouver le taf que tu veux faire. Mais c'est vraiment l'exercice, c'est ta dernière chance, quoi. Si celui-là, tu n'y arrives pas. Et c'est un jeu, en fait, où tu regroupes des métiers, etc. Tu fais des cases, tu leur donnes des noms. Bon, il se passe plein de trucs. Et à la fin, ce qui est marrant, c'est que tu isoles des métiers inconsciemment, tu vois. Il y a un truc de subconscient.
Ah, j'avais
qui se
pas
fait
pensé
tout seul.
Que ça, en fait, ça pourrait correspondre.
Non, mais et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, d'abord, ils te demandent juste de lister tous les métiers que tu connais. Donc c'est long, ça dure une journée. Non, mais ça dure une journée à faire. Et tu listes tous les métiers. Mais j'aimerais trop le faire un jour avec nous pour le délire. Tu listes tous les métiers que tu veux faire. Et en fait, inconsciemment, si tu les sors, c'est que tu vois, tu tends vers eux.
Okay.
Et ensuite tu les listes, t'en fais des bulles, etc. Et moi je l'avais fait pour le délire. Et ce qui est fou, c'est pour ça que je t'ai dit fermier tout à l'heure, c'est que j'avais une case auquel j'étais trop attaché, où dedans il y avait fermier, pêcheur, routier. Et en fait je me suis rendu compte à quel point pour moi c'était important de pas avoir un patron. Je me suis rendu compte à quel point ça m'épanouissait de me gérer seul. Ouais, parce que j'ai jamais pensé à être fermier, franchement. Et j'avais fait une bulle où je me suis dit, mais ouais, ces métiers-là, je les kiffe. En
l'indépendance.
Fait.
Mais l'indépendance, ce que t'as aussi en étant artiste, du coup.
Ouais, voilà, il y a un truc de. Ça se rejoignait, etc. Et je regardais cette bulle, je me disais, ouais, je les kiffe tous ces tafs.
Alors oui que... et non, parce que quand t'es pêcheur, tu pêches le truc dont tu vas te servir forcément. Pour manger. Alors que quand t'es artiste, t'as besoin d'un public pour t'écouter. Et ouais, t'as besoin de moyens.
Bah, quand t'es pêcheur, t'as besoin d'avoir des gens qui achètent ton poisson.
Bah,
aussi,
bien sûr. Oui, et t'as besoin d'avoir des poissons aussi.
En vrai, ah, là... ah oui, moi je croyais que tu disais pêcheur pour toi.
Non, non, mais, pêcheur, mais il a ça n'existe pas en vrai, je pense. Non, mais en vrai, c'est des métiers surtout que je connais pas. Et quand on rentre dans le détail, ça se trouve, t'as 1000 patrons et c'est tout aussi chiant. Ça se trouve, être fermier, c'est.
Il est où le cabillaud, Roger?
Tu devais me manger de merde, évasion.
En vrai, c'est super naïf de dire ça, mais tu vois, il y avait un truc, même routier, c'est con de. Pour moi, routier, c'est juste tu roules. Alors que forcément, il y a des trucs à faire. C'est extrêmement naïf. Et bref, donc il y avait de ça. Et du coup, là, j'arrive à mon deuxième métier. J'ai fini de m'égarer. Pardon. Le métier qui m'est venu comme ça, ça ressemble à ce que j'ai fait. En fait, je trouve que c'est de la triche de dire ce qu'on fait.
C'est lequel, le top 1? C'était enseignant?
Non, le top 1, je vais le dire maintenant. Okay. Pour moi, là, s'il y a un métier qui me fait kiffer, c'est doubleur. Je trouve doubleur, ça rejoint tous les critères que je kiffe. C'est que t'es un petit peu dans l'artistique. En même temps, t'as un taf un petit peu stable. Parce que t'es la voix de quelqu'un ou donc t'es censé avoir du taf, tu vois. En même temps, t'es plutôt bien payé. En même temps, t'as pas les défauts de l'artiste, c'est-à-dire que...
T'as l'anonymat.
T'as l'anonymat. Moins,
mais potentiellement le manque de reconnaissance aussi.
Mais... Ouais, mais quand t'es la voix de Brad Pitt, t'as une reconnaissance...
Mais quand t'es la voix du mec qui est mort dans Fast and Furious, là, t'es pas bien. T'es pas bien.
Et puis surtout, n'importe qui peut pas être doubleur.
Non, c'est un vrai taf de comédien. Ouais. Ouais. Il faut être comédien. Non,
oui, il faut pas avoir une voix de merde aussi. Des fois, ça, c'est inné. Hein. Ça, c'est, genre, y a
bah,
des gens
qui jouer des monstres rigolos dans les films d'animation, quoi, si t'as vraiment une voix de merde.
Donc t'as pas beaucoup de taf, quoi.
Je sais pas si c'est vraiment le meilleur taf du truc, mais je trouve
que c'est intéressant.
Mais ce qui est marrant, c'est que ça rejoint plein de trucs que les gens... de base sont censés vouloir, tu vois, un peu de ce qui est con, mais tu sais, quand t'es doubleur, il y a aussi un truc que les gens ils savent pas, c'est que des fois tu rencontres aussi les voix que tu doubles. Ils aiment bien faire ça sur des films, sur des séries, pour que voilà, ça crée un truc. Et des fois ils font des tournées, les vrais acteurs, ils rencontrent tous les doubleurs d'Europe, etc. et tout. Ah, donc il y a cool. Un truc, en fait t'es un peu proche de ce milieu, tu vois, mais en même temps sans en voir les mauvais côtés, et continuer ta petite vie, avoir une fille, faire des pièces de théâtre à côté, tout ce que tu veux, faire du diabolo. Il y a un côté genre, je trouve, t'as un pied dedans, t'as de l'argent, et en même temps t'es yimbe, et t'as un peu plus de stabilité que, parce que nous, si on dit aux gens bah être artiste, enfin les gens ils voient que les bons côtés, mais les gens qui connaissent, ceux qui galèrent et tout, ils savent très bien que c'est pas du tout le meilleur métier du monde en vrai, à part si t'as vraiment envie de le faire. Si t'as un peu envie de le faire, je pense que si t'as un petit peu envie d'être artiste, non mais vraiment, si
c'est horrible,
un petit peu, c'est le pire métier. Ouais. Je le dis, si t'as un tout petit peu envie, c'est le pire métier. Si t'as moyennement envie, c'est le pire métier. Si t'es très chaud, c'est le pire métier. Faut que tu sois vraiment déter pour que ça soit, faut que tu t'amuses et que tu te dises, putain, ça fait un an que j'ai pas gagné d'argent. Mais en même temps, heureux, qu'est-ce que je suis bien. Là, faut vraiment que tu sois déter.
Au final, on peut se nourrir d'oxygène. Hein, c'est...
Qu'est-ce que je suis bien. J'ai hâte que cette représentation à Limoges se fasse avec la troupe amateur.
Des durs à cuire.
C'est tellement ça.
Voilà. Ok, donc top 2 enseignant, top 1 comédien doublage.
Ouais, j'ai essayé d'être concis.
Ok, non, il y a des prises de risques, on aime bien. Panas, c'est quoi pour toi le meilleur taf?
Je suis vraiment désolé, mais j'ai pas de meilleur taf. Okay. J'ai réfléchi, j'ai vraiment essayé
c'est
de réfléchir.
Pour ça, j'en ai fait deux pour
lui. Tous les coins. Non, moi j'ai pensé évidemment à enseignant parce que ma mère est professeure des écoles et je vois qu'elle a. Il y a un truc de transmission qui est magnifique. Mais après, je pense que c'est là où je disais que ça va être dur de trancher, c'est qu'il y a tellement de sous-catégories. Il y a des métiers où des métiers où t'es ton propre chef. Il y a des métiers où t'es un peu ton propre chef. Il y a des métiers où tu vas être un exécutant. Il y a des métiers où tu prends un plaisir dans la transmission. Il y a des métiers où, au contraire, tu apprends tout le temps. Et t'es tout le temps dans l'apprentissage. Il y a des trucs... tellement... En fait, c'est impossible. Je vois pas comment je peux aller définir le meilleur métier. Moi, j'adore l'architecture. Je pourrais dire que c'est architecte, mais d'un autre côté, je crois que quand je pars genre dans des métiers, dans des pays et que je découvre des trucs, je me rends compte qu'il y a des métiers tellement kiffants. Genre en Inde, sur le bord de la route, il y avait des mecs qui faisaient du thé, et je me disais, c'est tellement cool. C'était tellement cool. Ils étaient dans leur coin, ils étaient entre potes, ils étaient posés dans un coin, ils faisaient du thé toute la journée pour les gens.
T'as un risque de mourir quand même. Ouais. Fort, quoi, de...
Mais la pollution aussi. Du coup, ce qui est compliqué, c'est que je peux malheureusement pas dire que j'ai un métier préféré au monde ou que c'est le meilleur métier du monde.
Non, c'est intéressant. Personne n'a joué la carte de y en a pas pour l'instant.
Je suis persuadé que le meilleur métier du monde,
c'est être mère.
C'est celui que je suis en train de faire. C'est être artiste. Mais on avait parlé de métier accessible. Et c'est ça qui est différent. C'est ça qui est différent aussi, c'est qu'on peut pas. Quand on parle du meilleur acteur du monde, il n'y a pas d'accessibilité ou pas. On parle juste du meilleur acteur du monde. Là, on parle du meilleur métier du monde. Et vous nous avez donné le critère d'accessibilité, ce qui, pour moi, compliqué à juger parce que
pour expliquer même pour préparant devenir l'émission j'ai demandé à ce qu'on choisisse un métier qui est un peu réalisable. Alors je veux pas être Daft Punk, je veux être musicien, mais on prend en compte les galères qui vont
même pour devenir doubleur. En vrai c'est un métier qui est, ouais, qui est difficilement accessible parce que là, les 90% des gens ne savent pas parler devant un micro par exemple. Enfin c'est l'accessibilité, elle est tellement compliquée. Chaque personne a 10 ou 15% d'accessibilité par rapport à ça et 70% par rapport à ça. Il y a tellement de gens d'ailleurs qui ont des domaines qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir cette période d'éveil que nous, on a eu la chance d'avoir. Donc il y a des gens qui vont être, toute leur vie, ne sauront jamais qu'ils seraient incroyables dans ce métier-là, par exemple.
Moi, je trouve que c'est ça qui rend intéressant, c'est le fait que ce soit accessible. Et c'est ça qui fait que cette question du meilleur job, elle est intéressante à écouter ou à discuter. C'est que c'est un truc que tout le monde peut faire, tu vois.
C'est quoi Cyrus pour toi du coup?
Donc moi mon deuxième choix c'était aussi enseignant, pour les mêmes raisons qu'a développé à Nice,
c'est dur,
donc je reviendrai pas dessus.
Juste parenthèse, je trouve que ça défonce et que c'est effectivement un métier que j'adore aussi, mais je trouve qu'en termes de stress et de responsabilité...
Alors attends, après enseignant pour moi c'est large, c'est-à-dire que c'est, ça va être un mec, c'est formateur en fait, c'est quelqu'un qui transmet du savoir, que ce soit... Je sais pas, que ce soit prof de musique ou que ce soit enseignant à l'école, mais ça peut être aussi genre un gars qui fait une masterclass sur. Enfin voilà, c'est transmettre du savoir.
Okay.
De gagner de l'argent en transmettant du savoir, en gros. Mon choix numéro un, c'est cuisinier. En fait, je trouve que l'intérêt du cuisinier, c'est que bah, déjà, il sert à un besoin de base de ouf.
Primaire.
Qui est juste manger, tu vois. Ensuite. Il y a un côté où genre il y a tellement de types de cuisiniers différents, tu vois, genre ça peut être un chef kebabier, tu vois, genre le mec qui te prépare ton grec, mais ça peut être aussi un truc de gastronomie, tu vois, genre il y a tout un, c'est hyper large la cuisine, tu vois, et genre il y a aussi ce truc où tu peux t'envoler et être artiste gastronomique
qui rejoint ta notion de j'ai besoin d'avoir une marge de progression.
Exactement, ouais, genre il y a de tout en fait chez les cuisiniers. Il y a le côté aussi en termes de thunes. Genre, tu peux gagner ta vie normalement ou même très bien gagner ta vie suivant ton art, tu vois. Il y a aussi le côté, je trouve ça important d'avoir un job où genre tu puisses être indépendant. Genre, tu peux travailler pour des gens, mais tu peux être aussi indépendant. Un cuisinier, il peut monter son resto, tu vois. Et en fait, je trouve que cuisinier, ça rejoignait pas mal de choses que j'aimais bien. Et donc voilà, pour moi, c'était...
Non, je suis d'accord. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que moi, des fois, je me fais la réflexion de quand les gens, ils me font à manger, je vais dans des restos, des trucs, je me dis, putain, mais la pression qu'ils doivent avoir. Alors que, là, tu sais, au bout d'un moment, je pense que tu dénatures le truc, tu t'en fous, tu vois. Mais je me dis, en fait, c'est important, là. Je vais, dans ma journée, je vais le faire que deux fois, tu vois, normalement. Donc, t'es censé donner ta life et le faire bien, tu vois.
Mais des fois, moi, j'aime bien quand des fois, ils sortent de la cuisine.
Ouais.
Et tu sais, des fois, t'en es eye contact et tu lui fais... Tu mets ton pouce, tu dis, mec, c'était chambé.
Le petit cumin.
Il te fait son petit clin d'œil, tu vois.
Fait,
Mais il y a ça aux États-Unis, je sais pas si vous voyez des vidéos à chaque fois qu'ils tournent. C'est des mecs qui disent, qui a fait ce burger? Qui a fait ce burger? Et tu penses qu'il va s'énerver. C'est toujours la même vanne. Et ils disent, c'est lui. Il dit, mec, ton burger, il tue, mec. Et tout le monde applaudit. Tu dis, ah, les Américains, ils sont cool, quoi. Quand ils tuent pas des Irakiens.
Ok, cuisinier, le côté noble et tout joie, tout à fait. Moi, il y a juste deux trucs que j'y ai pensé aussi, qui me refroidissent un peu.
Ouais.
C'est le stress. Et en vrai, la difficulté du taf, parce que au début, quand tu commences et tout, c'est un truc qui est hyper stressant.
Ça dépend de quel...
Être commis, c'est très très dur.
T'es obligé de commencer
par
là.
Quand je vais chez mon kebab, mec, et que je prends un falafel, le mec, il stresse pas. Hein.
Bah, le tien précisément, je pense que quand tu commences, que t'es sous l'ordre d'un cuisinier qui te dit quoi faire et tout, je pense que c'est quand même relativement stressant. Et quand t'es indépendant, c'est aussi stressant de devoir faire tes thunes, en fait. Je trouve que, que tu sois indépendant, t'as ce stress-là qui est assez compliqué. Et quand tu bosses pour quelqu'un, je pense que les gars en cuisine chez les chefs et tout, tu perds 10 litres de sueur.
Je suis vraiment un fils de
soir,
pute, mais c'est ce que je voulais dire en termes d'accessibilité, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas gérer le stress. Il y a des gens qui adorent gérer le stress.
Non, mais
et tu parlais aussi de possibilité d'arriver dans la gastronomie, de monter son propre restaurant. Là, il y a un truc d'entrepreneuriat que vraiment des gens vont détester.
Ah oui, mais c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a tout un pan où genre, c'est pas vraiment stressant, quoi.
Ouais.
Tu vois, genre, tu vas dans un petit resto de quartier qui se prend pas la tête, un truc familial, et t'es...
J'ai rencontré un commis l'autre jour, et il avait une vraie pression.
Si, parce que la pression que ton resto ferme pas et tu fais assez de couverts, tu vois, je pense que c'est un truc.
Non, mais là,
qui
tu t'es passé
stressant
en mode entrepreneur. Là, tu n'es pas entrepreneur.
En tant
qu'employé dans un petit resto.
Toi, tu parles exécutant, quoi. C'est sous les ordres du mec qui a la pression, en gros.
Autre point négatif.
Je pense que ça, c'est notre vision Netflix. à cause des documentaires.
Non, ouais. moi j'ai une très bonne pote qui taffe dans la cuisine. D'ailleurs, c'est le coup de pote que je lui fais un très gros bisou et qui a arrêté parce qu'elle trouvait ça vraiment trop vénère, quoi. Tu vois, je pense que vraiment c'est dur, quoi. Et l'autre point négatif,
pression que tu n'as pas quand tu fais des blagues, par exemple,
c'est les horaires de travail, parce que quand même, t'as toutes tes soirées qui sont bouffées, quoi.
Ouais.
Alors que oui, doubleur, franchement doubleur.
Doubleur, t'es un peu plus tranquille.
Toutes tes soirées sont bouffées.
Doubleur de docu sur la cuisine.
Yes.
Allez.
Moi, putain, j'ai un peu honte parce que j'étais parti sur des métiers beaucoup plus marrants et beaucoup plus légers, quoi. Je pensais qu'on allait rentrer sur la battle est-ce que c'est testeur de Vida de Luxe ou nourrice de panda, quoi. Donc, du coup, je vais peut-être moins. beaucoup moins intello dans mes réflexions, quoi.
C'est pas grave.
Testeur de toboggan.
Ouais, testeur de toboggan aquatique, ça existe.
Je l'ai vu, moi j'ai cherché sur le net avant. Parce que j'arrivais pas.
Auteur de carte de vœux. En vrai, je trouvais ça assez cool.
J'ai regardé aussi les trucs de dormir pour la NASA.
Ouais, les trucs.
J'ai regardé hier les articles. Un mec qui dort pour la NASA.
Trop court. Ouais, ouais. C'était pas très rentable.
Auteur de carte de vœux, je sais pas si t'as vu. Tu fais des jours ensemble.
Ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, je te dis, juste amusé à faire des vannes et en plus des trucs qui vont faire plaisir aux gens. Je trouve que c'est assez agréable comme métier. C'est pas trop stressant. Tu fais des jeux de mots pour la Saint-Valentin, les anniversaires et tout.
Bah, du coup, les gars qui font les jeux de mots de Monoprix.
Ouais, ça, c'est cool.
D'ailleurs, que j'ai appelé.
Ah, j'adore cette anecdote. Est-ce que tu peux nous mettre le message vocal, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.
Ça va peut-être niquer.
Mais
non.
Oh, non bah, il a appelé Monoprix. Il leur a dit, je comprends pas votre jeu de mots et tout.
Il y a un jeu de mots. Et le mec du SAV. Et je les ai appelés. Je leur ai demandé, ouais, je comprends pas la vanne en fait. Je la comprends pas. Désolé. En fait, j'ai dit, je suis friand de ce que vous faites. C'est cool. Je comprends pas. Il a dit, bah ok. Bah, il a cherché le gars. Il était en mode, bon, vous savez quoi, je le fais passer au service qui s'occupe de ça. Et on vous rappelle dans 3 jours. Et du coup, j'ai le message vocal. Le gars, il me dit, bah alors, je vous explique la vanne.
C'est génial. On peut écouter ce message vocal ou pas?
Vas-y,
je sais pas le temps que je le trouve.
Vas-y, je continue de parler des métiers que j'ai trouvé cool.
Franchement, ça me fait pleurer de rire. Pardon, désolé.
Pas de soucis.
J'ai adoré ce prank.
C'est fou. Le côté ambassadeur aussi. Ambassadeur de whisky, de bouffe et tout. Tu peux aller promouvoir le produit que tu défends. Tu voyages, tu rencontres des gens et tout.
Ça, c'est commercial un peu.
Ouais, il y a un côté lobbyiste. Il y a un côté lobbyiste qui est un peu dégueulasse quand même.
Ouais, mais quand il y a un ambassadeur pour le Beaufort, je crois, le fromage, c'est ça.
Ouais.
Cette lobby du Beaufort, tu vois, ça va. C'est pas, tu dis pas, ouais, je vais.
Ça reste.
Non, moi, je trouve que commercial, c'est toujours mal vu, alors que c'est un métier hyper important et c'est les soldats de la boîte. Tu vois, c'est vraiment.
Ouais, c'est ceux que t'envoies vraiment au front.
Ouais, ouais, c'est ceux qui font que la boîte marche, quoi.
Il y a un autre métier un peu gaulerie, c'est pas mon préféré, mais je trouve aussi marrant, c'est tagger pour Netflix. Où en gros, t'es payé à mater tous les trucs de Netflix et à écrire les mots-clés que t'associerais à ce que t'as vu.
Ok,
c'est quand même une bonne planque.
C'est pas mal.
Et du coup, non, mon choix, il rejoint un peu le tien, Cyrus. Moi, mon choix, c'est critique gastronomique.
Ah ouais.
Où bah, y a le côté où tu manges, t'es dans la bouffe, tu vois, on a dit besoin primaire, et je pense que c'est vraiment la bouffe.
Et tu payes pas.
Je l'ai pas mis parce que je l'ai pas considéré comme accessible.
Là, c'est sur ce point-là où effectivement je sais qu'il est moins fort que les autres.
Tiens, on discute d'accessibilité. Prenez mes doigts dans vos gueules.
Tu taffes dessus, t'as des écoles, enfin. Tu peux y arriver, je pense quand même.
C'est en vrai, on peut juste préciser que même toute la liste que t'as faite, elle est vraiment pas accessible. Tu vois, c'est le genre de métier, t'as l'impression que tu sais pas où tu les trouves. Ouais. Tu connais un gars qui fait ça, qui dit bah c'est ouais, moi je mate des pornos toute la journée. Ouais,
Guillaume. Critique.
Dédicace à lui.
Guillaume Bruchon. Critique, il faut savoir écrire. Hein.
Ouais, il faut savoir écrire. Non, mais après, ça se travaille. Ouais, je pense que t'as cette phase-là où t'apprends au début, juste tu t'apprends à décrire, etc. Attends, Anis, t'as le message peut-être?
Ouais, mais peut-être si je le mets en fin d'émission.
On le mettra à la fin, carrément. Ouais. Et donc du coup, effectivement, donc t'as cette difficulté-là. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, tu manges et la nourriture, c'est quand même le truc qu'on fait peut-être dans notre vie le plus et qui à chaque fois nous procure un plaisir nouveau.
Moi, c'est vraiment baiser.
Je peux baiser la nourriture. Mais ça, et du coup, c'est quand même une source d'épanouissement quasiment inépuisable. En termes d'horaire de travail, c'est quand même plutôt cool. Tu payes les midis et tu bosses pas, tu bosses un peu quand tu veux. Je me suis mis quoi dans les.
Il y a un autre avantage, parce que je connais quelqu'un qui est critique culinaire pour le Times, et en gros, t'es aussi, du coup, vu que tu voyages, etc., t'es aussi logé souvent dans les hôtels.
Ça, c'est très cool.
Où il y a l'hôtel gastronomique, enfin, où il y a le resto gastronomique et tout, et souvent, ça va de pair, quoi. Souvent,
t'as tout.
T'es
le bien, package est sympa.
Voilà, t'es bien accueilli, quoi.
C'est pas hyper stressant, t'as des bons plans. Parce qu'après, tu peux conseiller à tes potes et tout, t'as les petits trucs et tout. Hors de travail, cool, possibilité de voyager. Et surtout, ce que je trouvais plus intéressant, c'est que tu pouvais vraiment briser une carrière en un papier, quoi. Ça m'excite.
L'humiliation.
Voilà, donc.
Moi, pareil, cuisinier, ça m'excite de pouvoir cracher dans le plat.
Ouais,
et genre,
voilà.
Tu vois.
Clairement, c'était mon top 1.
Moi, prof, ça m'excite de violer un élève.
Yes. C'est ça qu'on veut, les vides. Ouais, mascotons, putain. Avant de passer au vote final, un petit vrai ou faux.
Allez.
Vous me dites des jobs, vous me dites si vous pensez qu'ils existent ou pas. Consultant en couleur.
Vrai.
Ouais, c'est vrai ça.
Bien
c'est
sûr.
Vrai. On est tombé sur le même article, désolé mec.
Ouais.
Tu veux, je me tais.
Ça existe.
Ces gens qui sont juste chargés de donner leur avis sur des couleurs, sur des packaging et tout. Je trouve ça assez fou.
Ouais. Je trouve ça normal, moi.
Ouais, je trouve ça assez normal aussi. Qui est ça?
Branleur de dindon.
Oui.
Ça m'étonne pas.
Ça existe.
Bah,
ça existe.
Si, si, ça existe. Ça je crois qu'il y a des animaux.
Les dindons, ils se reproduisent pas.
Ouais,
assez.
C'est ça, il y a des animaux
du coup,
qui arrivent pas à se reproduire.
Pour qu'ils aient un extrait de muscle et qui après fassent des fécondations.
Comme les il y a certains éléphants qui arrivent pas et du coup, ils doivent les branler et tout.
D'accord. Plus dur. Les pandas. Personnes.
Les pandas aussi et tout, c'est horrible. Il y a plein d'animaux.
Qui ont du mal à se reproduire.
Qui sont en voie d'extinction parce qu'ils arrivent pas à se reproduire. Les pandas, c'est tellement dur de faire baiser des pandas. Ça s'excite pas du tout.
Mais est-ce que branler un animal, ça le fait kiffer vraiment?
Je sais pas si ça le fait kiffer,
parce
mais là
faudrait
c'est...
pas le sucer, ça irait plus vite. Non, mais moi, si ça prend les gars, demander. Moi je tape pas là-dedans.
Pour qu'il mieux.
Ouais, ça irait peut-être plus vite. Peut-être t'imagines, tu pourrais faire 10 pandas
c'est,
en un jour.
C'est une bonne idée. On va leur écrire.
On faudrait faire l'épisode le meilleure manière de faire jouer un animal.
Ce serait pas mal. Testeur de pipe à crack.
Non,
c'est vrai ça.
C'est illégal.
Non, ça existe pas.
Ah oui. Pourquoi
enfin, je pense que ça existe, mais c'est pas officiel comme job.
C'est mal payé. Je
pense que c'est forcément un gars qui
bureau...
teste la pipe une fois qu'elle est finie, tu vois.
Quand ton bureau c'est sous un pont,
c'est le mec qui l'a fait. C'est
ça
tout.
Marche
le...
pas.
Si tu testes une pipe à crack, c'est que souvent tu meurs après.
Oui.
Quand ton bureau c'est genre un grand container avec des flammes dedans. Bienvenue chez moi.
C'est pas
un vrai boulot.
L'ordre du travail.
L'Union européenne elle cautionne pas.
Analyste de pécanin.
Waouh.
Ah, pour savoir s'ils sont malades
alors
et tout.
Ça, si tu y as pensé, c'est que c'est vrai.
Non, je pense pas.
Enfin, si tu aurais pas pensé, je veux dire.
Ah, je dis que c'est vrai ça.
Ouais,
je pense pas. Moi, je pense que c'est plus les excréments, mais les pets,
c'est faux.
Ouais.
Mais non. Oh là là, il est fort. Ouais,
je pense qu'il faut analyser les crottes, mais analyser les pets, c'est trop.
Ce serait génial.
Ouais.
Réchauffeur de lit.
Oui, ça existe.
Ça, elle est au Japon, il devrait voir ça.
Ah ouais,
ça existe, ouais, dans les hôtels, pour que quand les clients arrivent, le lit soit déjà chaud, ils mettent des gens dedans qui ont une combinaison hyper protégée et tout, tu vois, hyper aseptisée, ils se mettent dans le lit pour le réchauffer, pour quand t'arrives, soit chaud.
Mais pourquoi ils mettent pas simplement des diodes chauffantes?
Ça coûte moins cher d'utiliser
ça
les
crée
humains.
Des emplois,
ouais. Bah ouais, ça
en Asie, ça coûte
t'as
moins
envie
cher.
Qu'ils soient au chômage, ces pauvres personnes. Bravo, toi.
Imagine un jour t'arrives et ton
le mec il est resté là.
Le humain il est resté là et il se colle contre ton
en plus,
dos là.
Il est avec une tenue de diodes, ouais. De trucs chelous.
Mon dieu.
Testeur d'Escot Girl.
Ouais, ça c'est vrai, j'ai vu sur le site aussi. Désolé.
Ouais, putain, vas-y, chier. Ouais, ça existe. C'est un mec qui. C'est un américain qui a staff là.
C'est Ribéry
gros,
qui fait ça, je crois.
Il rencontre les meufs qui sont prêtes de sectionner et il parle avec elles pour voir si psychologiquement et tout, elles seront prêtes à faire le taf et tout. Et aussi, il y a une petite analyse physique, il n'y a pas de coït, mais juste il prend les mensurations et il regarde si elles matchent avec les profils qui sont recherchés.
Ok.
Testeur de site porno.
Ouais.
Non.
Bah, si. Bien sûr que si, moi on connaît quelqu'un qui fait ça. Si, je te jure, non, c'est vrai.
D'ailleurs, on lui doit 100 balles.
Non, mais je te jure.
Vraiment?
Ça existe?
Okay. Non, il fait pas des sites porno. On a un pote qui vérifie des DVD de cul, voir si
y a
tout
pas
va bien.
Il n'y a pas de faux raccord, il n'y a pas de
signe nazi.
C'est pas testeur de sites porno, voilà, mais en gros, il teste les vidéos avant que les vidéos soient publiées.
Ah, c'est ouf.
Il les regarde et donc il passe des fois 8 heures par jour à regarder des vidéos de cul. Parce que des fois, il nous dit qu'il y a des incohérences de scénario.
C'est
et il dit je leur envoie le montage et ils refont le montage en fait parce que les monteurs ils s'en battent tellement les couilles qu'à un moment elle est habillée et d'un seul coup elle a plus le haut alors
j'ai
qu'ils sont dans la continuité
cette personne.
Ouais, c'est
et du coup il nous disait que c'est chiant au final et qu'il kiffe plus au bout d'un moment, ça lui il y a plus d'excitation et que pour lui le truc le plus marrant parce qu'il doit le vérifier aussi c'est le making of à chaque fois parce qu'il doit vérifier le making of.
Ouais, donc lui il nous envoyait des extraits des fois tellement marrants où le réalisateur il dit là on voit pas tu peux ne pas vraiment la pénétrer et la meuf elle fait non je préfère qu'il me pénètre vraiment. C'est tellement marrant, il y a des trucs tellement chelous.
Et comment il gère son excitation
la
masturbation et tout.
Bah, il a peur,
je pense qu'il n'y a plus rien.
Après bon il a dû nous mentir un peu, il doit se branler de temps en temps, mais en tout cas je suis sûr que c'est vrai, c'est qu'à un moment bah ça devient ton taf,
t'as
un taf à faire.
Surveilleur de peinture qui sèche.
Ça, c'est vraiment un métier que t'as inventé
pour
te débarrasser de quelqu'un.
Ouais, c'est pas
tu
une...
peux surveiller la peinture qui sèche, s'il te plaît.
C'est pas une
pancarte. Chercher l'échelle de Richter.
C'est pas le boulot d'une pancarte avec écrit peinture fraîche.
Ça existe.
Alors, c'est ouf de se dire que
l'interview d'un mec, son métier, c'est de ça toute la life, c'était de vraiment surveiller, la toucher de temps en temps pour voir si elle séchait bien ou s'en était.
Ah ouais. Mais il dit quoi à ses enfants quand
tu sais qu'il a fait 8 ans d'études.
Il est ingénieur.
Il a un doctorat.
En colorimétrie.
Voilà, et il y a un autre job sur lequel je suis tombé que je trouvais ça assez cool. Je mettrai le lien aussi en description. C'est un mec qui a créé son métier et qui est testeur de sites internet ivres. C'est-à-dire qu'il dit si votre site il est vraiment bien fait, même les gens bourrés doivent savoir s'en servir. Donc il se bourre la gueule et il teste et il envoie à des boîtes ses services. Et du coup, il a bossé avec plein de boîtes et il teste juste les sites en étant bourré. Il fait des rapports en mode ah, ça j'ai pas trop compris. Pour être sûr que le site marche bien. Les amis, on va essayer de se mettre d'accord sur le meilleur taf.
Enseignant.
Bah je pense que ouais, il y a un truc qui se dégage, c'est le deuxième choix d'Anis.
Apprentissage.
Moi
je continue à penser
moi c'était mon choix, j'en ai parlé ce matin.
En termes de pression et tout, t'es un peu isolé, je voterais pas enseignant.
Critique culinaire, t'as une pression aussi. Hein. Pardon, excuse-moi.
Moins, je trouve.
Ouais, moi. Ah. Après, c'est vrai que je suis d'accord que pour moi, le meilleur taf autour de la table de tout ce qu'on a dit, c'est effectivement critique culinaire.
Quoi. Genre, voilà, tu passes ton temps. Je vois pas pourquoi on continuerait la discussion. Non, mais si la phrase a été prononcée.
Non, mais tu manges des trucs de fou.
Ouais.
Ton job, c'est de dire à quel point c'est fou, ouais. Ou alors c'est pas vraiment pas fou.
Mais justement, voilà. Est-ce que tu deviens pas aigri sur la vie? Et d'ailleurs, il y a un truc d'accessibilité où il faut avoir un palais, faut avoir un truc développé.
Après, c'est vrai que sur le long terme, c'est vrai que c'est il a raison. Sur le long terme, ça.
Regarde dans Ratatouille, le critique culinaire, il est méchant. Hein.
Ouais, mais à la fin, Anis, il a la main. Sauf qu'à la fin, il revient un truc de ouf, il le ramène à quand il était petit et Madeleine de Proust de ouf, et du coup.
Monsieur,
vas-y, Anis.
Oui, Anis, vas-y.
Mais est-ce qu'en vrai, les critères. Enfin, est-ce que c'est vraiment le pire critère, la pression?
Non, ça en fait pas.
Parce qu'en fait, on n'a pas évalué les critères aussi.
Oui,
est-ce que le fait de te sentir vraiment utile dans la société, c'est pas l'un des meilleurs critères? Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais je veux dire, là, en fait, on va choisir.
Cuisinier a été vite excité, je trouve.
Là, pour nous, critique culinaire. C'est bien juste parce qu'il n'y a pas de pression. Mais ça se trouve, c'est pas un défaut. Il hein. Y a des métiers, la pression.
Et tu sers, tu as une utilité quand même. Tu potentiellement, ton pouvoir, c'est d'aider les gens à mieux choisir ce qu'ils vont manger et à mieux se nourrir.
C'est fou qu'enseignant, même avant qu'on en parle, là, tu vois, on appelle ça le plus beau métier du monde.
Bah oui.
Il y a un truc bizarre.
Un film avec Gérard Depardieu qui l'appelait comme ça.
C'est pas les gens qui disent ça.
Et Gérard Depardieu, il a dit c'est être un sauciflard.
Mec, t'as souvent fait la vanne pendant le podcast de meilleur métier, c'est maman. Pourquoi t'as dit ça? Parce qu'il y a ce côté de transmettre, il y a ce truc de former les générations futures.
Exactement, donc je pense que moi je vote enseignant.
Ouais, moi aussi je pense.
Et c'est ce qu'on retrouve chez enseignant.
Il y aura un vote. Ouais, de toute façon,
mais pourquoi ne pas enseigner aux nouvelles critiques culinaires?
Voilà.
Non, et mais d'autres trucs aussi qu'on peut dire, c'est que le meilleur taf pour nous, c'est ce qu'on est en train de faire chacun, tu vois.
Ouais, bien sûr.
C'est cool aussi de.
Peut-être pas, mec.
Sauf pour Cyrus qui aimerait toujours observer.
Il
envoie une lettre toutes les heures de pas être à l'observatoire.
Tu veux écrire des vidéos pour Golden? Envoie des pitchs, mec, frère. Pourquoi tu fais pas ça?
Non, mais peut-être que j'aurais aimé faire une observation plutôt.
Merde. Ah, c'est ça que tu voulais. Je peux pas t'aider là.
Non, pas être partout. Ok, donc du coup, j'imagine que c'est enseignant.
Ah, il a le seum, mais.
Non, je j'ai synthétisé tout le monde. Anis, tu restes sur enseignant.
Ah bah ouais,
Pana, tu le rejoins.
Enseignant.
Déjà que j'ai perdu le combat du meilleur
culinaire, donc.
Meilleur album de rap, j'ai perdu. Alors là, cette fois.
Non, t'as gagné.
Non.
Ah non, t'avais dit Prince de la Ville.
IAM. Moi, j'avais dit 113.
Donc vous préférez perdre et gagner que plutôt trouver vraiment.
Ah non, moi je veux gagner, frère. Je m'en bats les couilles du meilleur.
Non, mais moi je vais les rejoindre. Enfin, c'était. Par honnêteté, c'était mon top 2. J'y ai pensé aussi.
Petit applaudissement pour.
Enseignant.
Bravo.
Vous voulez qu'on fasse.
Bien sûr, on peut terminer ce podcast.
On va le mettre à la fin.
Après le générique et tout. Ouais.
Ok, messieurs, merci beaucoup d'être venus.
Merci
beaucoup
à vous.
Merci.
Où est-ce qu'on
merci
peut vous retrouver?
Merci à Cyrus. Alors, de garder toutes vos blagues.
Je sais où est-ce qu'on peut retrouver Panatis, parce que je suis allé voir son spectacle et c'était fort bien.
Merci beaucoup. Ça m'a touché.
C'était vachement cool.
Ça m'émeut.
Bah, c'était toi qui étais touchant. Panayotis.
C'est vrai qu'il est touchant son spectacle.
Du coup, on peut le voir où en spectacle?
On peut le voir au point virgule.
Yes. Dimanche au mercredi à 21h.
Et je crois qu'il y aura des salles à l'Européen aussi.
Ouais, en mai.
Et pour les gens qui sont pas à Paris, est-ce qu'ils auront une chance de te voir peut-être un peu plus tard?
Ouais, mais c'est pas annoncé. On n'a pas de date de tournée encore, mais on va faire une tournée.
Ok, suivez-le sur Instagram pour être au courant.
Et il y a des vidéos sur YouTube aussi. Tu balances de temps en temps.
Ouais. De temps en temps, ouais. Mais c'est vraiment
là,
c'est en grosse pause. Là, c'est le spectacle indéterminé. Un autre projet aussi, un court métrage.
Ok.
Que je suis en train de monter. Bon voilà.
Cool.
Et Anis, où est-ce qu'on se retrouve?
Bah, j'ai une petite apparition dans le court métrage de.
Ouais, et d'ailleurs, on a monté. Non, c'est un court métrage avec Alex Lutz.
Ouais.
Je suis content parce que c'est César, le meilleur acteur et tout. Là. Et trop fort, ça fonctionne trop bien. Et il y a Anis qui joue dans le court. On a tourné à Nancy et tout. Et c'est une scène tellement courte, mais elle est tellement marrante. On l'a regardé, toutes les prises elles sont bonnes. Et on pleurait de rire avec la monteuse parce que moi, je te connais. Et c'était tellement marrant. Bref, c'était très, très marrant.
Bah, moi.
Il y a une vidéo qui sort bientôt.
Ouais, bah je pense peut-être que le podcast sera déjà sorti. Là,
sort jeudi et la vidéo c'est vendredi, non?
Vendredi, voilà. Bah,
demain. Donc,
demain.
On a une grosse vidéo qui sort là sur le thème du rap. Voilà. Vu que je suis un spécialiste, j'ai été invité au meilleur podcast de rap que je vous invite à aller écouter.
Exact. Et que t'as pas gagné.
Et j'ai pas gagné.
C'était le 5e épisode, je crois. Et on est le 26 mars aujourd'hui, au cas où les gens se demandent demain, machin. Voilà.
Et ok, bah et puis.
Mais le 26 mars, t'as dit.
26 février, pardon.
Et puis c'est tout, en vrai, suivez-moi sur mes réseaux, vivez votre life.
Tout sera en description.
Embrassez votre maman sur la nuque.
Tout sera en description, évidemment. Tom, où est-ce qu'on se retrouve, nous?
Bah, ce soir, on avait un truc qu'on avait dit, on se voyait.
Mais en dehors, pour les gens, avec les gens.
En dehors du sexe.
Ah, en dehors du sexe. Bah, dans un nouvel épisode, la semaine prochaine,
allez,
jeudi prochain.
Allez.
On se quitte en chanson, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Et à la fin de cet extrait, vous retrouverez le message vocal de Monoprix.
N'hésitez pas, profitez-en.
3, 4.
Simply the best. Town.
Enseignant.
Monsieur Rally, c'est... client Monoprix. Je me permettais de vous contacter suite à votre appel concernant notre mimolette hollandaise. Donc c'était pour vous informer que la référence en fait qui était faite sur l'emballage, c'était notamment pour évoquer le fait que généralement, de manière générale, la mimolette peut se consommer en tranches, en sandwich, hein, notamment dans des baguettes. Donc c'était justement un petit clin d'œil hein, pour nos gastronomies, entre la baguette qui est typiquement française et la mimolette qui est typiquement hollandaise. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.
Si vous écoutez encore, c'est que vous avez peut-être bien aimé ce podcast, alors merci.
Ouais, merci beaucoup, et pour nous aider à le faire connaître et à le faire grandir, vous pouvez faire plusieurs trucs.
Alors déjà, vous abonnez au meilleur podcast sur vos applis de podcast. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois podcast.
Il y a un autre truc important, c'est le noter 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast.
Ouais, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement et pour le faire découvrir à d'autres personnes.
Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun épisode, les liens sont en description.
Et au passage, on remercie Nouvelles Écoutes qui a coproduit cet épisode.
À jeudi.
À jeudi prochain.
Simply the best. Tain, 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 tain.